Et sans plus tarder, voici la rediffusion du libre journal de Serge de Beketch du 15 septembre 1999, un document d'archives de Radio Courtoisie. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 2 heures.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Beketch, dirigé successivement par Serge de Beketch, assisté de Victoria, et par Daniel Amish, assisté de Jacqueline. Émission datant du 15 septembre 1999. Cette émission est diffusée dimanche 9 octobre 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission a été réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Amis de la Résistance, bonsoir. Vous pouvez également communiquer avec le libre journal du mercredi soir ou le libre journal imprimé, car il y a également un libre journal de la France courtoise qui est imprimé, qui n'a rien à voir avec l'émission, sinon qu'il est fait par moi. Donc vous pouvez communiquer avec les deux par l'intermédiaire du Minitel, qui est le 3615 Libre Journal.
2 francs 23 la minute. Et là vous pouvez téléphoner, enfin envoyer toute la semaine.
Voilà, toute la semaine vous pouvez communiquer, et pas seulement pendant l'émission bien sûr.
Et demander des renseignements.
Voilà, tous les renseignements. Vous pouvez trouver... retrouver les thèmes traités pendant les vacances, notamment dans dans cette émission, dans l'émission d'Anne Brassier, d'autres émissions de Radio Courtoisie, avec les noms des invités, les livres qui sont cités, etc. Ça évite comme ça de déranger les standardistes de Radio Courtoisie, enfin de déranger, d'accabler les oui. standardistes qui sont parfois, très souvent très occupés. Et vous pouvez également trouver beaucoup de renseignements sur ce que j'appelle les réunions de famille. Alors, par exemple, les conférences, les débats, les meetings, les fêtes, les congrès, les colloques, quoi encore ?
Les séminaires.
Les séminaires, les messes, enfin, il y a tout, tout, tout. Et par exemple, dans le dernier, un des derniers documents qu'on est entré sur Minitel, que mon excellent camarade Arnaud Maillet a entré sur sa boîte Minitel, c'est des détails sur la conférence prochaine du CEP, que je vous recommande particulièrement parce que c'est passionnant, ou sur le colloque subsidiariste organisé par Benjamin Guillemin, notre ami Benjamin Guillemin. Voilà. Tout ça sur le 3615 Libre Journal. Je voudrais commencer cette émission exceptionnellement par lancer un appel. Au secours !
Help !
Help ! Et voilà, on est en cette rentrée de vacances. On a eu une très mauvaise surprise au Libre Journal. On s'est aperçu qu'on était dans la luzerne, comme on dit élégamment. Et il y a des frais énormes à payer. Et pour des raisons que je ne m'explique décidément pas, nous avons perdu certains abonnés. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. C'est un mystère. Je ne sais pas. C'est curieux. Il y a une...
Je pourrais donner un conseil éclairé.
Oui.
À nos auditeurs, d'ailleurs on va sûrement avoir beaucoup de messages, leur dire qu'il faut absolument lire le journal de la rentrée, parce que dans ce journal, il y a un éditorial de Monsieur Serge de Beketch qui va enchanter les populations.
Ah bon ? C'est vrai ?
Oui. À propos de la France multiculturelle, multiethnique, pluriraciale, je ne sais quoi d'autre.
Et polyconfessionnelle.
Ouais. Je veux dire que ça, les gens comme nous qui sont au contact, on est content d'entendre ce genre de propos.
Alors si vous, c'est gentil de le dire, si vous voulez vous abonner au Libre Journal, faites-le sans attendre s'il vous plaît, parce que vraiment on est dans une situation périlleuse. La clé a des tendances marquées à vouloir se glisser sous la porte. Et il nous faut vraiment quelques abonnés tout de suite. Il nous faut en fait au moins une cinquantaine d'abonnés tout de suite, de nouveaux abonnés. Si vous voulez vous réabonner, n'attendez pas. Si vous voulez prolonger votre abonnement en cours, faites-le maintenant. Et je vais tout vous dire. En général, la rentrée, qui tous les ans était extrêmement difficile, pour des raisons techniques, facile à comprendre, effectivement, il se trouve que à la rentrée, je vais rentrer dans les détails puisqu'on parle de rentrée, à la rentrée, on a la coïncidence de deux phénomènes qui sont contradictoires et gênants et cumulatifs. C'est que d'une part, on vient de traverser une période de pratiquement deux mois pendant laquelle la correspondance s'interrompt, et la correspondance, c'est des abonnements, des réabonnements, des choses comme ça. Et d'autre part, on a les factures qui arrivent, c'est-à-dire le terme, et puis les factures d'imprimerie. Et à chaque fois, ça pose des problèmes monstrueux. Mais jusqu'à présent, chaque année, il se trouve qu'il y avait une grande réunion à laquelle les Libres Journal participaient, à ses frais d'ailleurs, mais enfin on participait, qui s'appelait les BBR, et ce qui nous permettait de rencontrer beaucoup d'abonnés, de faire beaucoup de nouveaux abonnés et de vendre beaucoup de numéros à la pièce, si j'ose dire, oui, à des visiteurs qui voulaient connaître le journal. Et cette année, cette circonstance ne se présentera pas, puisque, comme je l'ai déjà dit, je ne serai pas présent, le Libre Journal ne sera pas présent au BBR, puisque nous n'avons pas été acceptés. En revanche, je le signale, nous serons présents, puisque là nous avons été invités, dimanche prochain, 19 septembre, au Albaltar, à Nogent-sur-Marne, RER Nogent, je crois, où le mouvement national tient sa fête de l'Île-de-France. Donc si vous voulez rencontrer le Libre Journal, vous pouvez venir à cette manifestation, nous y serons, car nous y avons été invités, ce dont je remercie vivement les organisateurs. Mais en attendant, c'est vrai qu'on va perdre le contact avec beaucoup d'habitués qu'on rencontrait tous les ans à la pelouse de Reuilly, c'est ça ?
Oui, oui.
Et la conséquence, c'est que on va vraiment être dans des difficultés. Donc si vous voulez que le Libre Journal meure, c'est très facile, vous ne faites rien. Ça, comme ça, le problème sera vite réglé. Si vous préférez qu'il vive, eh bien, abonnez-vous, rabonnez-vous, prolongez votre abonnement, ou commandez aussi, ça c'est pas interdit de le faire, à la pièce, le numéro qui vient de sortir, qui est le 189, dans lequel il y a l'éditorial que vient d'évoquer gentiment Victoria, ou le numéro, non, le 188 qui vient de sortir, oui c'est ça, ou le 189 qui va sortir, et dans lequel je vais revenir sur cette question. Parce que il y a eu un débat qui a été ouvert, notamment à Orange, et puis un peu avant Orange par Samuel Maréchal, sur la question de la multiconfessionnalité. Est-ce que la France est un pays multiconfessionnel, un pays multiethnique ? Et les réponses ont été, au sein même du Front National, les réponses ont été diverses. Notamment, il y a eu un discours de Jacques Bompard, qui est un discours formidable. Je dois le dire, c'est tout à fait remarquable, qui a été tenu à Orange. Il y a eu, à la suite de ce discours, une réponse de Stéphane Durbecq. D'ailleurs, à Orange, il y a eu également un discours de Farid Smaï, qui a fait l'objet d'un écho dans Présent, et écho auquel Farid Smaï répond dans le numéro de Présent, qui est paru hier et qui est en vente aujourd'hui. C'est tout à fait intéressant. Le débat est ouvert par Farid Smaï sur cette question, sur la question de la multiconfessionnalité. Jean Madirand, dans Présent, répond à la lettre de Farid Smaï. Alors moi, j'ai pas eu de lettre de Farid Smaï, mais j'ai un document qui est fort intéressant aussi et qui me paraît mériter d'être versé au débat, puisqu'il s'agit de la position exprimée par Stéphane Durbecq, qui se définit lui-même comme un Français de couleur, et qui est un militant du Front National, et qui répond en quelque sorte à Jacques Bompard sur cette question de la multiethnicité, de la multiconfessionnalité. Et il y a un troisième, donc je publierai des extraits, parce que le discours de Bompard est très long, et il évoque plusieurs problèmes. Je publierai principalement la question, enfin le passage relatif à la question que j'évoque ce soir, c'est-à-dire celle de la multiconfessionnalité et de la multiethnicité. Je publierai le texte de Stéphane Mudurbeck, qui me paraît tout à fait intéressant aussi, et je publierai également un texte du directeur du Front National de la Jeunesse, qui fait le point sur les réflexions et les réactions que ce débat suscite à l'intérieur du Front National. Je précise, parce que la première fois que j'ai fait ce genre de choses, j'ai publié un texte de Blou, deux textes de Blou, je m'inscrivais dans le cadre d'un complot, je ne sais quel calembredaine. C'est pas ça. Moi, j'ai toujours dit que il fallait une transparence, il fallait que le débat soit porté sur la place publique, en tout cas à l'intérieur de la famille, et que les sympathisants, les adhérents, les militants soient informés des problèmes qui sont soulevés par les états-majors et dans les directions des partis. Et je crois que la meilleure solution pour informer, c'est de fournir les textes. Comme dit Fustel de Coulanges et Jean Ferré, donnez-moi des textes. Alors là, je vais donner des textes à partir desquels vous pourrez faire votre siège. C'est ça qu'on dit ?
Votre choix,
vous saurez de quoi il retourne.
Établir votre doctrine personnelle.
Voilà, c'est cela. Et d'ailleurs, curieusement, cette question de l'immigration, elle a été évoquée, enfin, je ne suis pas curieux, mais c'est coïncident, elle a été évoquée récemment dans une émission sur Radio Courtoisie, c'est pas plus tard que dimanche dernier, au Journal des Scouts, où Mme Isabelle Daudet, qui est professeure de philosophie en banlieue, a parlé de son expérience de prof de philo, et elle a émis certaines opinions. Je dois dire que moi, ça a appelé de ma part des commentaires. Dans le débat, je fais ce commentaire, j'apporte les réactions qu'a suscité chez moi, qu'ont suscité chez moi les propos d'Isabelle Daudet. Et là, elle a évoqué notamment le retour au pays. Elle a dit, prétendre qu'on va faire retourner chez eux ces jeunes des banlieues, c'est tout à fait idiot, a-t-elle dit. Ils ne sont pas plus chez eux d'un côté que de l'autre de la Méditerranée. Alors, c'est-à-dire que là, il me pararaît quand même, ça me paraît assez une position assez incohérente, si j'ose dire. Je ne voudrais pas être désagréable, mais enfin, difficilement, c'est illogique. Parce que de dire que c'est idiot de les renvoyer chez eux et d'expliquer que c'est parce qu'ils ne sont pas plus chez eux d'un côté que de l'autre de la Méditerranée, ça n'a pas de sens. On peut pas dire les renvoyer chez eux s'ils ne sont pas chez eux d'un côté ou de l'autre. Ils sont chez eux nulle part, donc ils n'ont pas de chez eux. Et à ce moment-là, je vois vraiment pas pourquoi ils resteraient plutôt de ce côté-là que d'aller de l'autre. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. Et elle dit, quand ils sont là-bas, ça se passe très mal. Moi, je veux bien, mais je pense pas qu'on puisse prétendre que quand ils sont ici, ça se passe très bien. Si vous voulez un exemple de ce que je dis, il faut lire encore dans Présent un article intitulé « La belle vie à la Trottmann ». Alors, je ne vais pas le lire entièrement, mais je vais vous en donner quelques extraits. Ça se passe à Strasbourg. Voilà. Et Caroline Parmentier raconte ça pour vous montrer que ça se passe pas mieux quand ils sont ici que quand ils sont là-bas. Hein. Bon. Vendredi, un habitant de la cité des Roseaux à Ilkirch retrouve sa BMW carbonisée. Moi, d'abord, il y a une chose qui me fait rigoler, c'est que ces gens-là qui habitent des banlieues dans les cités et qui sont généralement RMistes, ils se baladent quand même en BMW. Faudra qu'on m'explique un jour comment ils font. J'ai pas bien compris. Avisant un jeune qu'il identifie comme un frère du supposé incendiaire, il se jette sur lui avec ses potes, le passe à tabac, l'embarque de force dans une voiture et le balance à l'eau, raconte Caroline Parmentier. Il est évident que si c'était un gars du Front National qui avait fait ça à un jeune des banlieues, je vous garantis qu'on en aurait parlé pas mal quand même. Or, pour autant que je sache, bien qu'écoutant beaucoup la radio et lisant tous les journaux, j'ai pas vu beaucoup de traces de cette affaire, enfin, en tout cas, des détails de cette affaire dans la presse.
D'autant plus qu'on l'y ont jeté à l'eau, oui.
Oui, ils l'ont jeté à l'eau, bien sûr. Partie. Alors, Caroline Parmentier continue.
Oui, il savait nager, celui-là.
Voilà.
La chance.
Oui, il savait nager. Dans tous les sens du terme. Le jeune qui parvient à rejoindre la rive sain et sauf court. Alors, où il court ? Au commissariat ? Chez lui pour se sécher ? Non. Au commissariat pour se plaindre ? Non. À l'hôpital pour se faire donner des médicaments contre le rhume ? Non, pas du tout. Il court rameuter sa bande du quartier de la Mainau pour une expédition punitive. Le branle-bas de combat est impressionnant. Les jeunes de la Mainau marchent sur les jeunes d'Ilkirch. On imagine très bien. Armés de barres de fer, de cutters, de machettes. De machettes. De battes de bois plantées de clous. Non mais, ça n'est pas grave. De cocktails Molotov, de sabres et de baïonnettes. Peut-être même des poignards, des SS. Allez, imaginez. Alerter les policiers qui tentent d'intercepter l'expédition punitive, sont bombardés de pavés. Ils peuvent s'estimer heureux de ne pas avoir pris un coup de baïonnette. Devant l'attroupement massif qui s'est formé, les policiers doivent rebrousser chemin et se retirer aux abords de la cité pour appeler du renfort. Ce n'est de toute façon que le lendemain que la police aura les moyens de reprendre provisoirement le contrôle de la situation. Au cours des perquisitions, dans les immeubles de la cité, les enquêteurs découvrent chez l'un des interpellés, un fusil à canoncier et 160 000 francs en liquide. 17 jeunes âgés de 17 à 20 ans sont écroués et jugés en comparution immédiate. Ces Alsaciens, c'est vraiment des gens impossibles. Impossibles. Il va falloir les renvoyer de l'autre côté du Rhin, si vous voulez. Mais ça ne se passera pas mieux, c'est toujours ça le problème. Voilà.
Oh, mais le monde est grand.
Hein?
Le monde est grand.
Mais le monde est grand, voilà. Alors, Isabelle Daudet ajoutait, ils doivent bien se sentir quelqu'un et de quelque part. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je pense, moi, que si j'étais arabe et musulman, je me sentirais chez moi, je me sentirais arabe et musulman, et d'un pays arabe et musulman. Et c'est pas ça qui manque dans le monde. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours très rigolo, mais il y a quand même beaucoup plus de pays arabes et musulmans que de pays français et chrétiens. Les français et chrétiens, il y en a un. Les pays arabes et musulmans, il y en a une palanquée. Et à mon avis, un arabe musulman se sent beaucoup mieux dans un pays arabe musulman que dans un pays français chrétien. Ça me paraît assez clair. Et Isabelle Daudet ajoute, ce sont nos Indiens. Non, je suis désolé, Madame Daudet, c'est nous les Indiens. Comme disait Le Pen, Sitting Bull, c'est moi. Les Indiens, c'est nous. C'est nous qui sommes chez nous, sur notre terre, où on vit comme on veut, et un beau jour, on voit arriver des gens qui occupent notre territoire, et qui... Alors, la différence, c'est qu'ils ne nous distribuent pas, contrairement à ce qu'ont fait les envahisseurs de l'Amérique, ils ne nous distribuent pas des couvertures bariolées et des barils d'alcool, et des fusils qui explosent à la première balle, mais ils nous font d'autres cadeaux dont on pourrait assez facilement se passer. Et puis elle nous dit, je pense, comme disait Kant, que la question n'est pas de savoir si l'intégration est possible, elle est de la faire. Alors, je suis toujours très sensible au fait qu'on cite Kant, qui est pratiquement la vérole dont va crever l'Occident un jour ou l'autre, mais je veux dire que là, c'est vraiment la chose qu'on peut retourner, parce qu'on peut très bien dire, je pense, comme dirait Kant, que la question n'est pas de savoir si on peut les renvoyer chez eux, Si le fait de les renvoyer chez eux est possible, elle est de les renvoyer chez eux. Ça, par exemple, vous voyez, c'est tout à fait kantien aussi. Et Madame Daudet ajoute, il est inimaginable, impensable, injuste de déporter toute cette population jeune qui n'a rien connu d'autre. Alors là, moi, je veux bien, mais si j'ose dire, il fallait y penser il y a 35 ans, 37 ans. Parce qu'il y a 37 ans, on a renvoyé... on a déporté toute une population, jeune et vieille d'ailleurs, et qui n'avait jamais rien connu d'autre. Ils s'appelaient les Français d'Algérie, et un beau jour on leur a dit, vous n'êtes plus chez vous ici, il faut partir. Et personne n'a posé la question de savoir si c'était inimaginable, impensable ou injuste de déporter 1 million de personnes de cette façon-là. Alors qu'aujourd'hui on nous dise que c'est inimaginable, impensable et injuste de faire la même chose, eh bien... je ne peux pas l'accepter. Pour moi, ce n'est ni inimaginable, ni impensable, ni injuste, ni même impossible. Pardon. Enfin, il y a une très belle phrase qui a été prononcée, c'est « Toute guerre est une démission du Logos ». Eh bien, on peut répondre par l'Évangile. C'est Luc 12, 49 qui dit... qui parle lui qui dit, mais c'est le Christ dans Luc 1249, qui dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» C'est-à-dire, je suis venu porter la guerre. Et le logos, en l'occurrence, le verbe, est bien venu porter la guerre. Donc, on ne peut pas dire que le logos ou le verbe, quand il démissionne, il provoque la guerre, puisque le verbe lui-même, il est facteur de contradiction, d'affrontement et de guerre. Je crois que là, il y a une confusion entre deux termes qui ne sont pas tout à fait semblables. C'est le logos, ou le verbe, et la palabre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà ce que je voulais répondre à propos de... Sans aucune animosité, je m'empresse de le préciser, mais enfin, je crois que toutes les opinions peuvent s'exprimer. Je sais d'ailleurs que toutes les opinions peuvent s'exprimer sur Radio Courtoisie quand elles sont conformes à la loi et exprimées en langue française. Alors j'ai essayé de parler en français. Et étant donné qu'on est dans un système de loi stalinienne qui change au gré des circonstances, des jours et des interlocuteurs, et à la tête du client, je ne peux pas garantir que j'étais conforme à la loi, mais enfin j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà.
Serge, je crois que tout à l'heure, quand vous avez parlé du libre journal, vous avez peut-être fait naître une petite confusion. Mmh. Alors, il y a deux choses. Il y a l'abonnement à Radio Courtoisie.
Ah oui.
L'abonnement à Radio Courtoisie, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, cotisation minimum de 250 francs. Ça, c'est pour s'abonner à la radio. Mais le libre journal de la France Courtoise, c'est un journal qui est imprimé, que vous publiez. Et celui-là, c'est totalement différent. C'est un abonnement qui coûte 600 francs 700, pour l'année.
700 pour l'abonnement, 600 francs pour le réabonnement.
600 francs pour l'abonnement, 700 francs pour l'abonnement nouveau. Et puis, vous donnez l'adresse, c'est-à-dire, parce que là, on me la demande.
C'est 4 places 4 France List. Alors, France comme France, et List comme liste, mais pas comme... Vous savez que c'est extraordinaire. C'est... Même sur les plaques de rue, c'est écrit parfois en...
Ah oui, oui, c'est difficile. En...
N'importe quoi. Alors, c'est L-I-S-Z-T.
Voilà.
Voilà, François France List.
Voilà, France List.
Et donnez l'arrondissement, s'il vous plaît.
75-010, Paris.
Merci, cher Pascal Berdard. Alors, pour détendre, je voudrais vous raconter... On va faire de la peine aux fonctionnaires, maintenant.
Oh, c'est très vilain, ça.
Il y a une petite histoire que je trouve très jolie. Klaus qui m'a raconté ça tout à l'heure, Klaus de l'Alzaco. Il m'a raconté qu'il y a 3 enfants qui bavardent. Alors, il y a un enfant qui dit à l'autre, « Moi, mon père, il y va plus vite que n'importe qui. Hein, » Parce qu'il fait du 200 à l'heure. « Qu'est-ce qu'il fait, ton père ?»« Il est coureur automobile. »« Oh oui, mais moi, mon père, va bien plus vite que le tien. Moi, le mien, il fait du 2000 à l'heure parce qu'il est pilote d'avion. » Et le troisième dit, moi, mon père, il est le plus rapide de tous. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est fonctionnaire. Bah, comment il est rapide? Eh ben, il quitte le boulot à 5 heures et il est à la maison à 4 heures. Voilà. Alors, les fonctionnaires peuvent téléphoner pour se plaindre.
Vous m'en avez dit une autre tout à l'heure.
Ah oui, je dis, quand monsieur PTT épouse madame RATP, comment appelle-t-il leur enfant? Il appelle EDF. Pourquoi? Parce que, PTT, monsieur Petit travaille tranquille, épouse madame RATP, reste assis et payé, et leur fils s'appelle EDF, c'est-à-dire enfant de feignant.
Oh.
Alors ça, c'est si vous voulez, attendez, non, il faut quand même que je dise, si les fonctionnaires qui nous écoutent nombreux ont des protestations à élever, ils vont à l'Alzaco, 10 rue Condorcet, et ils vont gifler Klaus.
Voilà encore des propos qui risquent de vous mener sur les bancs de la correctionnelle.
Vous savez comment on appelle, quelle est la seule compagnie aérienne qui arrive toujours en retard et qui part toujours en avance? C'est fonctionnaire. Voilà, c'est fini, on arrête. La prochaine fois, je vous parlerai des journalistes.
Oh, c'est scandaleux.
Bien.
Tiens, à propos toujours du journal, parce que j'ai des messages, alors vous avez beaucoup de messages de soutien, mais il y en a un qui dit « Je me suis abonné avant les vacances. Nous sommes à la mi-septembre, je n'ai toujours pas reçu le libre journal depuis le début du mois. Que se passe-t-il » Serge de Becquet, peut-il nous dire s'il y a des problèmes à la poste?
Non. Ah, il n'y a pas de problème à la poste, il y a simplement le problème qui est le problème du décadaire, dont j'ai déjà parlé, je résume en deux mots.
Mais c'est un nouvel abonné, alors expliquez-lui tout.
Eh bien, la poste achemine les journaux d'après par routage, selon des codes. Si vous êtes hebdomadaire, vous avez un numéro de code qui est 205 ou 206. Et si vous êtes mensuel, vous avez un numéro de code qui est 206 ou 205. Je ne sais plus, je n'ai jamais su faire la différence. Ce qui est certain, c'est que si vous êtes hebdomadaire, la Poste s'engage à vous livrer à J plus 2, c'est-à-dire le jour du dépôt plus 2 jours de latence. Si vous êtes mensuel, la Poste s'engage à livrer à J plus 8, c'est-à-dire le jour du dépôt plus 8 jours de vacances, de latence. Quand j'ai créé le libre journal Décadaire, je suis allé à la Poste et je leur ai dit, un décadaire, c'est presque un hebdomadaire. Donc, je vous demande de me traiter comme un hebdomadaire. Ils m'ont dit, non, un décadaire, c'est pas un hebdomadaire, donc on l'inscrit dans la catégorie des mensuels. Heureusement qu'ils m'ont pas inscrit dans la catégorie des annuels, d'ailleurs. Par conséquent, ils ont le droit de distribuer mon journal. Ils ont le droit, d'ailleurs, s'ils ne l'avaient pas, ils le prendraient, mais enfin, ils ont le droit de distribuer mon journal à J plus 8, ce qui, pour un décadaire, est intéressant, puisque comme ça, les gens le reçoivent pratiquement l'avant-veille du jour où je finis le numéro suivant. Alors, c'est pas le cas tout le temps. En général, il arrive dans les 2-3 jours.
Moi, je l'ai reçu ce matin.
Voilà. Mais il y a certains bureaux de poste, je l'ai vérifié, où le journal arrive le lendemain de son départ, et il est stocké dans un coin du bureau de poste, parce que comme ils ont J plus 8, il ne faudrait surtout pas habituer le client à lui rendre service avant, à lui rendre service pour rien. Donc, le journal est délivré avec beaucoup de retard. Ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. Voilà, donc le libre journal, abonnement 700 francs, 4 places Francis, 75 010 Paris.
Alors, vous avez beaucoup de témoignages de soutien, de sympathie. Plusieurs auditeurs s'engagent à s'abonner et viendront vous voir à nos gens. Et puis, une auditrice vous dit qu'elle va vous faire avoir beaucoup d'abonnements, et elle vous dit, parlez-nous de la Russie. Alors, je crois que ce n'est pas pour le programme d'aujourd'hui,
non,
mais vous y pensiez pour les autres fois.
Ben on fera une émission sur la Russie, oui, absolument. Pourquoi pas, c'est un sujet qui m'intéresse.
Et puis, pour nourrir un futur débat, on vous dit aussi, qu'attendez-vous encore de bon de la démocratie, fidèle de la vraie droite?
Mais je n'ai jamais rien attendu de la démocratie.
Bah oui, mais comme c'est le...
C'est le pire des systèmes, mais on vit dedans. Alors,
le système dans lequel on vit, il faut bien en
quand
tenir
on est
compte.
Dans si vous tombez dans une piscine remplie d'autre chose que de l'eau, vous avez deux solutions. Vous ne bougez pas, parce que, évidemment, ce n'est pas un endroit agréable pour se baigner. Et à ce moment-là, vous vous noyez, ou vous essayez de nager pour en sortir, mais plus vous remuez, plus ça sent mauvais. C'est évident, mais il faut quand même ramer. Alors, la démocratie, c'est ça, c'est comme une piscine remplie de pas d'eau, et dans laquelle vous êtes obligé de nager, plus, c'est-à-dire de faire de la politique, mais plus vous faites de la politique, plus ça pue, ça c'est certain. La politique, c'est qui disait ça, je crois que c'était Laval, qui disait, la politique, c'est comme l'andouillette, il faut que ça sente un peu la merde, mais pas trop.
Hein ? Voilà un très joli propos.
C'est dédié aux amateurs d'andouillettes.
Ouais, je crois que le vice de la démocratie, c'est le libéralisme.
Docteur Dor. Pardon. Non, vous
je
avez
crois
la
part. Que je crois que le vice de la démocratie, c'est le libéralisme. Ou très exactement, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit, chacun que le sait, la loi est l'expression de la volonté générale.
Et ce qui n'a d'ailleurs aucun sens.
Est-ce qu'il n'a aucun sens? C'est-à-dire que c'est l'arbitraire qui fait les lois. Ce n'est plus l'ordre divin, l'ordre naturel, c'est l'arbitraire. Et ça, c'est le vice de la démocratie. Parce qu'une démocratie où on élit simplement, suivant la compétence, c'est tout à fait convenable. Mais une démocratie où c'est la majorité qui décide de la vérité, c'est une folie. Et je dirais que ce libéralisme, ou cet article 6, serait aussi la folie de tout autre régime, et y compris de la monarchie ou d'autres... La monarchie ne peut être que droit divin. Tous les régimes ne devraient être que de droit divin ou suivant le décalogue, à mon avis.
Mais on est absolument d'accord.
Ouais.
Il n'y a pas que là-dessus, d'ailleurs, qu'on est d'accord.
C'est
pour ça que vous êtes là, parce que si on n'était pas d'accord, je ne vous aurais pas invité à venir appeler à des manifestations qui
exactement.
Sont quand même contre la volonté générale, vous comprenez?
Ça, c'est vrai. Voilà. Et nous avons, vous savez, alors je le dis à vous, bien sûr, mais aux auditeurs, je suis stupéfait de la faible mobilisation que nous... encore à Nantes, nous allons à Nantes le 18, c'est-à-dire dans 3 jours, samedi. Alors là, c'est parfait, à Nantes, ça marche bien. Mais à Paris, j'ai honte. Nous sommes une centaine, il y a 10 millions d'habitants dans la région parisienne au minimum, et nous sommes 100, à peu près toujours les mêmes. En face, 200, 300, à peu près toujours les mêmes aussi. Enfin, ils mobilisent quand même 200
oui,
à 300.
Vous savez bien pourquoi, docteur. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que beaucoup de braves gens pensent réellement que le combat contre l'avortement est un combat inutile.
D'arrière-garde, peut-être.
Non seulement, mais même inutile, parce qu'on dit, bon, après tout, vous comprenez, la femme a le droit de disposer de son corps. C'est l'idée, vous ne pouvez pas lutter, enfin, on peut lutter, bien sûr, on a le devoir de lutter, mais on ne peut pas lutter victorieusement tout le temps contre l'énorme machinerie médiatique qui est déchaînée en permanence.
Oui, mais ce que je trouve, c'est qu'on a quand même pas mal de tradis à Paris. Eh bien, moi, je pense, alors, à ce moment-là, que la droite tradis se comporte un peu comme la droite molle. Elle crie, des horreurs sur la droite molle, mais elle se conduit comme elle lorsqu'il faut aller au turbin.
Oui, mais il y a d'abord le fait que... Alors, je ne parle pas de cela, je parle de ceux que je viens d'évoquer, qui ne participent pas, parce qu'ils disent, non, moi, ça me paraît un combat Première chose. Deuxième chose, il y a des gens qui disent c'est pas la peine, ça sert à rien, on n'y arrivera jamais.
Et ça marche, puisque l'ordinaire a fermé, là, nous allons...
Alors, c'est cela qu'il faut détromper, il faut leur dire, au contraire, ça marche, vous avez fait fermer
ordinaire a fermé
les avortoirs.
Et alors quelqu'un m'a dit, mais pas du tout, vous vous trompez complètement, elle a fermé son propre chef, elle était... Alors on a été faire notre enquête, on a été demander une pharmacie. Alors à la pharmacie, on leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, la clinique a fermé, la clinique ordinaire. Ah, mais vous n'êtes pas au courant avec toutes ces manifestations. Alors ça nous a rassurés, on y a été 17 fois. Et alors ça, c'est
Géricault, un résultat. Vous avez tourné autour.
C'est Géricault. Et alors, maintenant, on voudrait aussi Géricault pour Jeanne d'Arc. Je crois que c'est la 18e fois que nous allons à Jeanne d'Arc. Alors, de grâce, venez en rang serré. Venez, alors là, j'annonce la manifestation pour le 25 septembre, samedi, un tout petit peu avant 14h, au coin de la... c'est toujours pareil, au coin... Les yeux fermés, vous venez. Enfin, les yeux un peu ouverts quand même, parce qu'il y a du monde. Enfin, hostile. Donc, le Château des Rentiers et Rue de Tolbiac. Voilà.
J'allais vous dire, la troisième raison, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont peur, et moi, je les comprends, parce que... On n'a pas envie de se faire cabosser par la...
Ben, on a eu un nez cassé, vous avez su. On a eu un type qui a été vraiment tabassé, le pauvre, mis par terre, etc. Coup de pied. Tout. Ouais. Ah là, il faut venir. C'est pourquoi il faut venir très discrètement, plutôt en groupe.
Mais remarquez, c'est pas grave, parce que c'est des démocrates qui l'ont frappé. Donc là, on
peut... Oui, c'est ça. Enfin, non, c'est un malheur. Mais je dirais, c'est vrai que c'est un danger. Mais toute vie comporte un risque. Et rester chez soi, ce n'est pas faire acte de vie. C'est plutôt faire acte de mort.
Surtout que vous risquez de tomber dans l'escalier, de vous coincer.
Voilà. Dans un taxi, ils peuvent avoir un accident aussi, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, il leur sera demandé un jour, il y avait des petits qui attendaient ton soutien, et puis j'ai pas vu grand monde à leur chevet. Mais là, enfin, j'ai quand même des bonnes nouvelles à vous donner, parce que à Avignon, il y a eu une manifestation samedi dernier, vous avez peut-être su. Alors un succès, c'était Monsieur Tess qui a fait ça, le fils de l'ancien maire de Vaison-la-Romaine. Et moi, il se plaint du peu de monde, mais 65 personnes à Avignon, devant la clinique Urbain 5, celle d'un pape, le nom d'un pape, c'était pas mal.
D'ailleurs, ça a toujours des noms de papes, enfin de papes de Père de Haute, mais clinique Jeanne d'Arc, clinique Saint-Jacques, clinique Urbain 4.
Mais oui, nous avons Saint-Jacques à la
clinique Mandela ou...
Oui, c'est ça, ou clinique libérale, je ne sais
Simone
pas.
Simone Veil,
ou c'est ça.
avec un Coluche.
C'est ça, enfin, des noms évidemment plus propices.
Mais genre ça, dont on aurait envie qu'ils soient avortés.
Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est notre grand problème. Je le dis à tous ceux qui nous entendent, ne faites pas la sourde oreille, c'est une folie. Si vous venez, vous apporterez à la fois la sécurité, le succès et la ferveur. Parce que plus nous sommes nombreux, je crois que nous serons fervents tous ensemble. C'est très important, ça. Franchement, va faire des réunions. Enfin, je ne connais pas, est-ce qu'il y a une recette pour ça, pour mobiliser les gens? Et quand c'est un peu dangereux, je veux bien, mais il faudrait qu'ils décident.
Il faut distribuer de l'argent. Si vous venez, on vous filera 100 balles, vous avez plein de gens qui viendront.
Alors là, je vais être comme Churchill, enfin, je n'aime pas beaucoup Churchill, mais je n'ai que des larmes à vous donner.
De la
sueur et peut-être à quelques coups mal placés.
Alors, enfin, puisque vous savez, vous, le jour et l'heure, et que vous êtes le seul, rappelez-nous
rappelle, très rapidement, donc, le 18 septembre à Nantes, devant l'hôpital Saint-Jacques, à Nantes, ça marche, je crois, sur le chapeau de roue, enfin, je crois. Et ça va être la deuxième fois. Et puis alors, à Paris, le 25 à Paris, septembre, la semaine suivante, toujours, je vous ai donné
le rendez-vous. Vous n'en revenez pas, en somme.
À 14h, pardon.
Vous n'en revenez pas.
Ah oui, alors là, à Nantes, alors, c'est un éblouissement. Les gens de Nantes ne m'entendent pas, mais vraiment,
il y a des gens tout près.
Il y a des gens du Mans, il y a des gens de la Mayenne, de Rennes qui viennent. Oh, on aura du monde, je crois. Enfin, priez pour nous. Et alors, je voudrais, si vous me permettez encore, vous dire une toute petite chose. Nous avons en ce moment quelques soucis parce que on a reçu les résultats de la cassation. Elle n'a pas cassé. Moralité, nous devons 170 000 francs à Caen et 210 000 francs à Rennes. Alors, c'est en partie payé, mais en partie seulement. Et vous voyez où je veux en venir. Il y a là-dedans des dommages d'intérêt, des amendes, tout ça. Enfin, bref. C'est vrai que... Et puis alors je suis convoqué, alors là, pardonnez-moi, je parle un peu de moi-même, très rapidement aussi, je dois le passer le 6 septembre, en... le 6 octobre, pardon, en correctionnel, à Versailles, pour les raisons de l'emprisonnement. Quand j'étais à Bois d'Arcy, eh bien, là, il y a eu une instruction, l'instruction s'est arrêtée, mon Dieu, parce que, je sais pas, ils voulaient pas trop de moi en prison, et là, je passe en correctionnel maintenant sur cette affaire.
Donc, vous étiez en train de convertir vos voisins de cellule,
alors. Je sais pas, mais ce qui marchait très bien, c'était l'extérieur. Il y a eu 500 personnes qui étaient venues à Bois d'Arcy, c'était quand même assez loin, et puis, il y avait une manifestation ensuite à Paris qui a très bien marché, il y a eu, combien? 100 interpellations sur le parvis de Notre-Dame. Il y avait eu un millier de personnes, ça marchait extrêmement bien. Donc la prison, finalement, c'est pour nous, c'est ce qui rend. Alors après tout, évidemment, eux ne souhaitent pas de faire de nous des martyrs, ça je comprends bien. Et alors la deuxième chose, attends, qu'est-ce que je racontais? Ah oui, j'ai un procès à Reims. Nous avons été à Reims juste après l'avenue du Pape. C'était en 96. 5 jours après, un vendredi, nous étions 8 à nous rendre au centre d'avortement de la Maison Blanche, c'est ça, de Maison Blanche à Reims. Et là, figurez-vous, il y avait 5 Américains, dont un colosse qui était là. Il s'appelait Franco, d'origine italienne. Un colosse qui priait à genoux, qui ne disait pas grand-chose. Et donc, nous sommes convoqués là le 26 octobre, je crois.
Mais il a tapé tribunal correctionnel. Il a tapé le colosse, non?
Ah non, non, alors là, il n'est pas plus manso, comme on dit en espagnol, que ce cher Franco.
Oui, enfin, on dit ça pour les taureaux, ce qui n'est jamais très bon.
Non, mais très, très calme, très, très agréable. D'ailleurs, il avait fait un tour et j'étais venu spécialement pour ça. Il allait ensuite au Mont-Saint-Michel et ensuite à Lourdes. Et en fait, il rentrait après au séminaire. Mais alors, je vous signale que ces 5 Américains ont un mandat d'arrêt international. Alors oui, ça va être pittoresque. Il y a 3 Français. Il y aura Myriam Dibundu, que vous connaissez bien, oui. Cette protestante charmante qui a voulu être présidente de la République, et qui s'est présentée aussi à un moment contre Madame Neyertz, pardon. C'est tombé bien. Et puis un garçon charmant, Pierre-Luc. Et voilà.
Bien, alors docteur, on se retrouve, oui.
Pour le docteur Dor, on vous signale qu'il y a des affiches chez certains commerçants qui sont contre l'avortement et sont signées de l'église de Scientologie, la secte. Ah. Y a-t-il un rapport entre cette prise de position anti-avortement et leurs ennuis juridiques?
Ça, c'est vrai que droit de naître, on ne sait pas exactement, il y a peut-être aussi une secte derrière, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il faut le droit de naître fait des très bonnes choses. Ça, je vous le dis comme je le pense, je vois leur publication, c'est impeccable, c'est d'ailleurs très joliment présenté, ce papier glacé. Évidemment, c'est un peu un courrier seulement, mais c'est très bien fait et très bien dit. Et puis après tout, ils agitent un peu la mare, c'est pas mal.
Et puis, vous savez, cette histoire de secte, moi, j'aurais quand même que... Oui, on se calme un petit peu, parce que...
Je vois ce que vous allez dire, et je vous approuve.
On sait comment ça va finir, hein. Oui. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une secte? C'est un endroit où on manipule les gens par privation de nourriture et privation de sommeil, où on bafoue les droits de la personne humaine. Et ben, et ça, vous pouvez dire ça de n'importe quel monastère, parce que dans un monastère, on fait lever les gens la nuit, on les fait jeûner, et donc on les manipule par privation de sommeil et de nourriture. On bafoue leurs droits, puisqu'un prêtre n'a pas le droit de se marier, alors qu'un prêtre est un employé, puisqu'il est salarié, hein. Il est salarié, c'est clair. Donc il est l'employé de l'Église. Alors en tant l'Église est un employeur qui outrepasse ses droits puisqu'elle impose des limites à la vie privée de ses employés. Un prêtre qui ne peut pas se marier, c'est une atteinte à sa liberté d'homme. Par conséquent, l'Église se rend coupable de ça. Et une femme ne peut pas devenir prêtre, ce qui l'empêche d'accéder à une activité professionnelle, c'est-à-dire c'est du sexisme. Donc l'Église est une secte qui manipule les gens et qui ne respecte pas les droits de l'homme. Je vous garantis que quand ils auront eu la peau de la Scientologie, quand ils auront eu la peau des témoins de Jéhovah, la peau des Mormons, ils s'occuperont sérieusement de l'Église, en commençant naturellement, parce que ça c'est la vieille technique des Horaces et des Curiaces, on va diviser l'adversaire, on va commencer par ce qu'on va appeler, ça a commencé hier dans une émission où j'ai entendu parler, des, non pas des intégristes, mais des fondamentalistes, sur France Inter, on parlait des fondamentalistes chrétiens, c'est-à-dire comme les fondamentalistes islamiques. Maintenant, on devient des fondamentalistes chrétiens, c'est-à-dire qu'on a le droit de nous tuer, puisqu'on est des bêtes brutes. Après, ça sera les intégristes, puis ça sera les traditionalistes, puis ça sera les conciliaristes de droite, et puis les conciliaristes du centre, puis après, ça sera tout le monde. Ça, c'est certain.
Du saucisson.
Et nous, on aura prêté la main à ces combines-là en colportant le discours vicieux de la plus grande secte du monde qui est la franc-maçonnerie contre les petites sectes concurrentes. Et voilà le résultat. Et on aura crevé, comme dit Jean Madiran, Odimini Krastibi, vieux truc, et ça marche toujours.
D'autant plus que les sectes sont souvent manipulées par les services secrets, sont même créées. De nombreuses sectes ont été créées par les services secrets.
En tout cas,
donc on crée l'ennemi et ensuite on le détruit pour étendre.
Ça, c'est...
Voilà, merci R. Doctor. Je trouve que ça vous va très bien, R. Doctor. Vous auriez porté des petites lunettes cerclées, comme ça. Il n'y a que votre sourire qui ne colle pas. Merci, Docteur Dora.
Merci infiniment.
Je vais donner tout de suite la parole à nos amis. Alors, je précise toujours que cette émission est une mosaïque, ce qui ne veut pas dire que toutes les pièces de cette mosaïque sont d'accord entre elles. Là, je vais donner la parole à des messieurs dont je connais absolument pas les opinions politiques, et chose d'ailleurs dont je me tamponne le coquillard avec une patte d'alligator femelle. Ils viennent nous parler d'Internet, et c'est pas parce que ils sont des voisins politiques, c'est parce qu'ils font un truc qui m'intéresse.
Excusez-moi, juste avant, vous avez déclenché une polémique, là.
Ah,
votre citation sur l'histoire de l'andouillette, votre citation est de Clémenceau, qui disait ça à ce secrétaire, Georges Mandel, et les autres disent, citation n'est pas de Laval, mais d'Edouard Herriot.
Oui, je crois que c'est Herriot, en réalité, qui disait ça. Alors, non, Clémenceau, il disait pas ça, Clémenceau. Éloignez les enfants, je vais être grossier. Clémenceau, il disait, Mandel, c'est bien utile, quand je pète, c'est lui qui pue.
Quelle horreur.
Mais c'est vrai qu'il disait ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est historique. Bon, alors, c'est de l'histoire, c'est pas autre chose. On a le droit de faire... L'histoire, c'est pas simplement un bain d'eau de rose. Hein? Ça, M. Sarkozy, quand il a écrit la vie de Mandel, il ne l'a pas raconté. Vous voyez ? Mandel, ça va. On va parler d'autre chose.
Vite. Tiens, vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech.
Eh bien, d'ailleurs, vous voyez, ce que je viens de dire, là, cette année, je briguais, comme tous les ans depuis le début, le prix Alphonse Daudet. Ben là, je viens de perdre toutes mes chances. Car le prix Daudet... Pardon, pas Alphonse, excusez-moi. Le prix Daudet. Le prix Daudet 99 récompense la personnalité française ou francophone ayant le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Autrement dit, moi, à dégager. Alors, ça peut être un journaliste, ça peut être un producteur de radio, un producteur de télévision, un écrivain, enfin, ce qu'on veut, quoi, je sais pas. Et il y a 2 ans, c'était le professeur Lacan. L'année dernière, ça a été Madame Brigitte Level. Comme ils sont que deux à faire cette émission, ça peut pas être cette année la troisième personne qui fait l'émission, qui est bonne d'ailleurs, mieux que bonne. Donc ça va être forcément quelqu'un d'autre. Alors, comment ça marche, Vous envoyez, si vous voulez participer au prix Daudet, c'est-à-dire en tant que, non pas en tant que candidat, si vous voulez participer en tant que candidat, il faut déjà parler français. Et ensuite, il faut être une personnalité française.
Et connu des Français.
Connu, tant qu'à faire.
Particulièrement des auditeurs de Radio Courtoisie.
Alors, cette année, je ne ferai aucune proposition, parce que l'année dernière, j'ai fait une proposition, puis le résultat, c'est que, voilà, ça n'a pas marché. Donc, il était presque ex aequo. Non, mais c'est... Bon, enfin, bref. Alors, qu'est-ce que je disais? Comment ça marche? Voilà. Vous écrivez Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, et vous envoyez une enveloppe timbrée à votre nom, libellée à votre nom et à votre adresse, dans l'enveloppe que vous adressez à Radio Courtoisie, et vous dites merci de me renvoyer un bulletin de vote. Là-dessus, dans l'enveloppe timbrée et libellée à votre nom que vous aviez envoyé à Radio Courtoisie, vous allez recevoir chez vous un bulletin de vote. Ce bulletin de vote, dessus, vous allez écrire le nom de la personne à laquelle vous souhaitez voir décerner le prix Daudet 99. Et vous allez envoyer ça à un huissier dont le nom vous sera indiqué en temps et en heure. Et cet huissier dépouillera ce qui est d'ailleurs exactement un travail d'huissier, pour une fois, il ne dépouillera pas Serge de Bekech, il dépouillera les bulletins de vote. À la suite du dépouillement, seront publiés les 10 noms des personnalités les plus souvent citées. Cette liste fera l'objet d'une deuxième votation qui se déroulera le dimanche 7 novembre 1999 lors du dîner traditionnel de la fête de la langue française à Paris. Je pense que ce sera à la mutualité, mais j'en suis pas sûr. Donc, ce 7 novembre 1999, si vous participez à ce dîner, vous trouverez dans votre assiette, et ça sera probablement d'ailleurs la chose la plus consommable, vous trouverez... Ah, non, c'est exagéré peut-être. La liste en question, qui les 10 noms. Alors à ce moment-là, vous trouverez également... je complique un peu. Non, c'est clair.
Non,
vous trouverez
si c'est
un
clair,
bulletin...
Je suis.
Un bulletin, même vous, vous comprenez ? Un bulletin sur lequel vous écrirez le nom de votre fave, comme on disait dans le temps. Vous disiez
de
ça,
votre docteur préféré. Dor.
Quand vous alliez dans les surprises parties, docteur Dor, vous disiez mon fave.
C'est la première fois que j'entends
ça. Jamais il allait dans les surprises parties.
Non, on disait c'est mon fave.
De toute façon.
Ah, parce qu'on était moderne, on était twist. Donc, vous disiez, mon fave, c'est Johnny. Alors là, vous direz mon fave, c'est un tel ou un tel ou un tel. Et vous mettrez le bulletin dans l'urne. Et à la fin du dîner, il y aura de nouveau un dépouillement. Et à la fin du dîner, on proclamera le nom du lauréat du prix Daudel 1999. Et Jean Ferré dira, par exemple, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le lauréat du prix Daudel 1999 est Serge de Bekech. Alors là, il va y avoir des acclamations. Voilà. Surtout des grands cris de surprise. Non, alors, voilà, c'est pour rire que je dis tout ça, mais c'est vrai, ça se passe comme ça, hein. Vous envoyez une enveloppe, on vous envoie le bulletin, vous renvoyez à l'huissier, et ensuite vous votez lors du dîner.
Quand la liste de 10 noms est établie.
Si vous n'avez pas compris,
la fête du dîner.
Sur 3615 Libre Journal, 2:23 la minute, je vais demander à Arnaud Maillet de publier le règlement de cette votation à deux tours. Voilà, tout le monde a compris ?
Oui.
Pascal Bernardin, vous avez compris ?
Bien sûr.
C'est bien. Non, mais il faut dire qu'il est polytechnicien aussi, donc quand même, il a de bonnes bases. Alors, Jean-Paul Gilly et Olivier Montet, vous êtes venus avec M. Safouane Djebri, qui est informaticien, qui est un spécialiste des nouvelles technologies, spécialiste de l'Internet. Cathy ?
Il faudrait qu'il ait un micro pour lui tout seul.
Voilà.
Non, pas non,
mais il n'y a pas d'autre solution parce qu'on manque de micro. Ah bah à moins que le docteur nous abandonne. Oh bah docteur, vous êtes vraiment d'une générosité rare. Alors Jean-Paul, si tu veux passer de l'autre côté. Alors, la question qui avait été posée la semaine dernière et sur laquelle on va revenir ce soir, je vous rappelle que vous allez venir plusieurs fois, donc on ne va pas parler très très longtemps, on ne va pas développer très longtemps le sujet ce soir, on va essayer de répondre à des points précis. Alors, je crois qu'on a compris à peu près ce qu'était l'Internet. Si on n'a pas compris, il faudra revenir en deuxième semaine. Ce soir, on va répondre à un auditeur qui avait, sur le 3615 Libre Journal la semaine dernière, envoyé un message dans lequel il exprimait la crainte, plus que la crainte d'ailleurs, la quasi-conviction, que l'Internet était un outil extraordinairement dangereux dans la mesure où il donnait accès sans contrôle du consultant, c'est-à-dire ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui, à des réseaux de prostitution, des réseaux de diffusion de la pornographie, etc. Alors, c'est effectivement une question qu'on pose à chaque fois, quand on évoque... Avant, c'était à propos du Minitel. Mais avant, on disait ça à propos des bibliothèques. Moi, je me souviens que, quand j'étais petit, il y avait des gens qui disaient « Vous comprenez, les livres, c'est très bien, mais si vous leur apprenez à lire, peut-être qu'ils s'en profiteront pour lire l'amant de la dite Chatterley. » Alors, à ce moment-là, vous ne saurez plus quoi en faire. Ils vont se transformer en bêtes brutales. Voilà. Bon, c'est pas ce qui est arrivé. Enfin, c'est pas parce que j'ai lu l'amant de la dite Chatterley, en tout cas. Après, on a dit ça du Minitel. On a dit « Attention, le Minitel... » c'est l'horreur, c'est les réseaux de Minitel Rose et tout, alors que le Minitel Rose représente Peanuts. Peanuts, ça veut dire pas grand-chose, hein, je précise pour les francophones. donc dans le fonctionnement du Minitel. Il y a quand même, vous savez combien, ça existe encore le Minitel, ça fonctionne très bien, contrairement à ce que vous semblez dire, Jean-Paul de Gilly. 100 millions d'heures de consultation. Et dans beaucoup de cas, beaucoup plus rapide que l'Internet. Par exemple, pour tout ce qui est consultation de programme, consultation de commande de billets d'avion, commande de billets SNCF et tout, ça marche très 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 bien. Je referai plus tard un coup de pub sur le Minitel. Mais, alors, votre réponse, Jean-Paul Gilly, la réponse sur la question, Serge, de la dangerosité.
Pour les auditeurs, très brièvement, Serge a raison. Le voyage en ballon, ça existe encore, mais tout le monde prend l'avion quand même. Donc, on peut imaginer que le Minitel a encore de belles heures devant lui, mais il ne s'agit pas du Minitel, il ne s'agit pas d'une concurrence. Ce sont des médiums qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On est, en fait, imaginez une seconde qu'on est en 1910. L'automobile a quoi, même pas 30 ans. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, on a pondu une loi en disant que cet outil, le moteur à explosion avec des roues, c'est tellement dangereux qu'il faut non seulement éviter les routes, mais il faudra absolument, il y a eu une loi là-dessus, faire courir quelqu'un devant la voiture avec un drapeau qui l'agitera de façon à prévenir et les poules et les ânes qui sont sur le chemin.
Et moi, je suis très pour.
Et vous voyez,
il y a 3 millions de chômeurs, le problème est réglé.
Et vous voyez très bien ce qu'est devenu l'automobile. Il est impossible, mais quasiment impossible, de résumer aujourd'hui ce que sera l'Internet et ce qu'en feront les nouvelles technologies et surtout les générations futures. C'est absolument très improbable, à moins d'être voyante, de pouvoir imaginer ce que sera la communication dans 20 ans. Mais ce qui est certain, et ce que l'on sait déjà, c'est que le monde ne sera plus jamais pareil demain par rapport à tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Internet va modifier considérablement les rapports humains, au moins pour la question de la communication élémentaire du billet, de l'écriture, de l'image et du son. Ça, on en est sûr. Ce qui est très révolutionnaire dans Internet, c'est premièrement...
C'est un mauvais argument sur Radio Courtoisie, dans mon émission.
C'est
hein.
Ça.
Révolutionnaire, mauvais argument, à bannir.
Révolutionnaire au sens de modifier définitivement
progressiste.
C'est pas une question de progrès. Je parle pas en termes de progrès, je parle en termes de technologie pure. Cette technologie va apporter de telles améliorations ou de telles modifications au savoir-faire et aux coutumes que nous avons que ne résisteront que vraiment ceux qui, par poésie, ne voudront pas en entendre parler. Mais forcément, dans les mois qui viennent, vous, Serge Debecquege, vous serez concerné par Internet, que vous le vouliez.
C'est fait depuis longtemps. Voilà. Pascal Bernardin, qui veut intervenir dans un domaine qui est le sien, puisque vous êtes informaticien.
Oui, je suis informaticien, effectivement. Oui, en ce qui concerne donc la question du contrôle d'Internet que vous évoquiez tout à l'heure, en mettant en avant en particulier les questions de prostitution, de protection des mineurs, je crois qu'il faut voir l'aspect dialectique, puisque nos adversaires sont des dialecticiens, l'aspect dialectique qui est que le développement d'Internet exige un contrôle, puisque nos adversaires sont en fait des socialistes, des personnes qui veulent socialiser toutes les activités humaines. Donc pour contrôler Internet, il faut trouver un prétexte, quel qu'il soit. Tout comme on contrôle avec les publications toujours par les lois sur les mineurs, sur la protection des mineurs, mais pour Internet, on va mettre en avant la protection des mineurs pour interdire ce que l'on veut interdire. On sait très bien que ces lois servent à interdire des choses tout à fait différentes de ce que les braves gens mettent là-dessous. Alors qu'en plus, techniquement, il y aurait des moyens pour empêcher... il y a des moyens, c'est pas il y aurait, c'est... Il y a des moyens pour empêcher l'accès au site à certains sites.
Alors ça,
Si l'on met en avant en permanence cet argument de protection des mineurs, de lutte contre la prostitution, le trafic de drogue, le trafic de matières nucléaires, enfin, etc., c'est un argument complètement fallacieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on n'a tout simplement pas envie que certains discours, que certaines opinions, qu'elles soient politiques, historiques ou autres, eh bien, puissent être exposées sur Internet.
Oui, il y a une autre chose qu'il faut dire, parce que la semaine dernière, Jean-Paul Gilly a dit vous prenez sur un moteur de recherche, vous tapez le mot sexe, qui lui-même n'a pas de caractère particulièrement extravagant, et vous allez tomber sur des milliers de sites où il sera question de ce sujet. C'est vrai, mais il faut ajouter que ces milliers de sites, une fois que vous les avez trouvés, si vous voulez rentrer dedans, il faut payer. C'est tout. La plupart, pas tous, mais l'immense majorité, car les Américains ont vite compris qu'il y avait du fric à faire. Donc la première barrière, c'est déjà la barrière de l'argent. La deuxième barrière, c'est celle de, effectivement, de la crainte, parce que, par exemple, moi, je le sais parce que j'ai parlé avec des spécialistes de ce genre de sujet, notamment des gendarmes qui font la traque aux pédophiles ou aux pédomanes sur Internet, il est évident qu'il n'y a pas de site qui s'appelle comme ça. Donc les gars sont obligés d'utiliser des tas d'astuces, des tas de mots codés et tout, que les enfants ne connaissent pas forcément. Alors par hasard, ils peuvent tomber, ça peut arriver, mais enfin, le danger, à mon avis, est surévalué. Et pourquoi, comme le dit Pascal Bernardin, le danger est surévalué volontairement, parce qu'il s'agit de justifier des lois contraignantes, des lois liberticides, des lois qui vont bloquer la liberté absolue dont bénéficie l'Internet, pas du tout pour empêcher les enfants d'accéder à la pornographie, parce que quand vous avez, j'en ai parlé la semaine dernière, un magazine pour petites jeunes filles qui s'appelle 20 ans et qui publie 130 pages de pornographie pure dans le numéro du mois d'août, il faut librement, sans aucun souci, sans aucune poursuite, sans rien, il faut pas que les gens après qui tolèrent ça, Madame Buffet, ministre de la Jeunesse, communiste, viennent nous raconter qu'elle se soucie des cochonneries qu'il peut y avoir sur Internet. La vérité, c'est que ce qu'on veut interdire sur Internet, c'est les travaux, par exemple, des révisionnistes. On ne veut pas que le professeur Fleurisson puisse exposer ses idées, comme c'est interdit, comme il ne peut pas les imprimer dans des livres, eh bien, il les publie sur Internet, et ça, on ne veut à aucun prix qu'il puisse le faire. Donc, on fait le même coup qu'avec la loi sur la presse de la jeunesse de 1948, je crois, ou 1946. Je ne sais plus d'ailleurs, peu importe, on dit c'est au nom de la protection de l'enfance qu'on interdit la publication de textes dont les enfants se contrefoutent. Alors absolument, parce que je peux vous dire que la polémique sur les chambres à gaz, les enfants ils s'en tamponnent. Alors là, c'est le cadet de leurs soucis. Pour eux, une fois pour toutes, le siège est fait, étant donné qu'on leur explique à longueur d'année, à longueur d'émissions de télévision, ce qu'il faut savoir de la vérité sur cette question.
Pour en terminer sur cet aspect qui est franchement pas le plus intéressant d'Internet.
Non, c'est pas le plus intéressant, mais c'est
j'irai simplement ceci, c'est que c'est vrai, je modulerai, je mettrai un bémol quand même, c'est que c'est exact qu'il n'y a il y a autant de dangers dans la lecture et dans les revues, évidemment, et monsieur a raison de souligner le fait qu'en fait c'est pour légiférer dans quelque chose qui n'a pas envie de l'être. Mais ceci dit quand même, la violence, par contre, hein, ceci dit, il faudra quand même pas oublier une chose, et on est obligé de le dire ici, c'est que la violence avec laquelle la pornographie, puisqu'il s'agit de ça, apparaît sur Internet, et bien rien à voir avec celle dont Serge de Bekech parle dans le magazine 20 ans. C'est pas du tout la même échelle, d'une part, et d'autre part, il faut savoir quand même que ce qu'il y a d'assez incroyable avec Internet, c'est que tout ça, tout ce monde, toute cette perversité, tout ce que vous ne voulez pas voir, en fait, n'est qu'un clic de souris de la page que
oui,
vous voulez
alors,
consulter.
Attendez,
c'est ça l'immédiateté qui pose
problème. Si on parle de la menace que ça fait peser sur les enfants, alors là, j'aurais un autre argument à opposer. Non, mais... ça, c'est que les parents ne peuvent pas déléguer à une espèce de puissance tutélaire le contrôle de l'éducation de leurs enfants. Parce que les parents contrôlent les lectures, enfin sont censés contrôler les activités de leurs enfants, ils sont censés contrôler leur lecture, ils sont censés contrôler les spectacles qu'ils vont voir, ils sont censés contrôler leur fréquentation, ben, ils sont censés contrôler leurs activités sur l'Internet. Et quand un enfant est devant son écran Internet, qu'est-ce qui empêche le père ou la mère d'aller jeter un coup d'œil en disant, qu'est-ce que tu fabriques en ce moment ? Je signale que sur l'Internet, il y a un truc qui s'appelle historique, et vous ouvrez l'historique et vous voyez absolument tous les sites que le bambin a consulté dans les 24 heures.
Je crois qu'il y a un autre argument à mettre en avant, c'est que quand les lois liberticides seront passées concernant Internet, eh bien le résultat sera exactement celui qu'on observe à l'heure actuelle en matière de publication. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien un certain nombre de choses seront interdites, mais la pornographie s'étalera exactement comme elle s'étale.
Absolument.
Donc effectivement, ce que vous dites est tout à fait exact. Il y a un véritable danger de multiplication des sites pornographiques et d'accès à ces sites par les enfants. Oui, de niveau également, avec toutes les formes de perversité, mais ce ne sont pas les lois qui vont y changer quoi que ce soit, puisqu'on sait très bien que ces lois ne seront pas appliquées, tout comme les lois sur les publications ne sont pas appliquées. Par exemple, il est interdit d'afficher des photos pornographiques sur les kiosques, et pourtant ça se fait.
Olivier, il y a une auditrice qui nous dit « Mon petit-fils, 9 ans, a été chez un ami de 12 ans. Cet ami lui a dit, viens voir ce qu'on voit sur Internet. » Et le petit a dit en rentrant, « Oh, c'était bien, j'ai vu plein de dames toutes nues.
» Bon, ben, c'est plutôt mignon, ça ne va pas le tuer. Si c'est simplement des dames toutes nues, il n'en mourra pas. J'espère pour lui qu'il en verra d'autres dans sa vie. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est de la faute des parents du gamin de 12 ans. C'est tout, ils n'ont qu'à surveiller leur gosse. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quand même incroyable que, sous prétexte que des gens laissent leurs enfants faire n'importe quoi, des adultes ne puissent pas utiliser ce qui est un des outils probablement les plus commodes. Et pas plus, il ne faut pas l'idolâtrer, l'Internet. Mais c'est extrêmement commode. Je veux dire, par exemple, une amie hier me téléphone en me disant « Est-ce que vous avez des informations sur David Duke ?» J'ai tapé David Duke sur Internet. Je suis rentré immédiatement dans le site de David Duke, qui est un congressman américain. Bon, et j'ai eu toutes les informations que je voulais sur lui. Je cherchais les informations sur une boîte américaine qui s'appelle Valmont, ou sur une boîte, ou sur les boîtes de Soros, par exemple, pour un article, ou sur une organisation qui s'appelle Red Horse. Eh bien, instantanément, on trouve tout ce qu'on veut. Si on sait s'en servir, c'est un outil prodigieux. Alors évidemment, on peut, comme tous les autres, un couteau, par exemple, ça peut servir à faire la cuisine, à étaler du beurre ou à tuer sa concierge. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut interdire les couteaux. Olivier Montet, vous faites de la formation à l'utilisation d'Internet. Quelle est votre réflexion sur cet aspect de la question? On traitera les autres aspects dans d'autres émissions, mais là on parle de ça proprement dit, de la dangerosité réelle ou supposée de l'Internet.
Déjà, il faut rappeler la finalité d'Internet. Internet a été créé dans un seul et unique but, c'est-à-dire faire passer une connaissance, et une connaissance dans un but pédagogique. Donc déjà, c'était fait pour les écoles, les universités, les grandes écoles, et ce n'était pas du tout fait pour faire passer n'importe quoi.
Et on peut dire exactement la même chose de l'écriture. L'écriture a été inventée pour faire passer des messages simples. Vous avez, patron, vous avez vos 50 brebis ont donné naissance à 43 agnolets au cours de la saison écoulée. Et puis un beau jour, un type a dit, mais si on peut écrire ça, on peut aussi écrire les aventures de Pinocchio et d'autres choses beaucoup moins puériles que ça. Voilà, c'est la vérité pour tous les moyens de communication.
Si vous me le permettez, humblement, je m'élève contre deux points de vue qui sont en train de prendre une très grande ampleur, comme quoi il y aurait un vide juridique quant à la protection et à la surveillance d'Internet. On peut y mettre n'importe quoi. C'est absolument faux. On dit ça parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais tout existe. Le code de la propriété intellectuelle s'applique à Internet, quels que soient les sites. Si quelqu'un copie une œuvre, il a le droit absolument de porter plainte devant le tribunal de grande instance. Toutes les lois concernant informatique et liberté s'appliquent dans leur intégralité et toute la protection de la vie privée peut être, toutes les règles qui concernent la protection de la vie privée sont applicables et n'importe qui peut porter plainte. D'autre part, sur les sites américains ou les sites anglo-américains, il y a, quand vous ouvrez la page, vous avez ce qu'on appelle un « children care », c'est-à-dire une mise en garde concernant les enfants et aussi un « parents care », concernant les parents. Et on ne peut pas rentrer dans le site tant qu'on n'a pas consulté complètement la mise en garde, l'avertissement, et si on n'a pas rempli certaines formalités d'usage. Et à ce moment-là, c'est donc un frein à tout ça. Mais c'est vrai que tous les sites ne l'ont pas.
Non, en ce qui concerne la protection juridique, je voudrais donner un autre avis qui est le suivant. Vous avez un certain nombre de pays dans lesquels les lois ne sont pas du tout celles qui existent en Europe, et en particulier en France et aux États-Unis. Donc, dans ces pays, rien ne vous empêche de créer un site et d'écrire n'importe quoi sur ce site.
Ah, c'est sûr.
C'est contre cette chose-là, et c'est le véritable enjeu du débat juridique, et celui-ci, bien qu'on nous le présente toujours autrement, on nous dira toujours que c'est pour protéger les enfants, enfin, etc., etc. Mais si vous allez en Arabie Saoudite pour créer un site sur certains problèmes concernant la Seconde Guerre mondiale, vous n'aurez pas les problèmes, ou vous allez en Chine, vous n'aurez pas les problèmes que vous pouvez connaître en France, aux États-Unis, en Allemagne. Bien. Donc le problème à traiter, c'est celui-ci. Et c'est l'objet des discussions internationales, c'est celui-ci.
En fait, il faut savoir une chose. Excusez-moi, Sir Dubuquet. Il y a une chose qui est d'abord, c'est vrai, votre point de vue est tout à fait exact, mais ce qu'il faut savoir, c'est où est hébergé le site.
Oui, mais quand le site est hébergé physiquement en Arabie Saoudite, c'est tout à fait différent.
Alors
oui.
Autrement dit, ce que vous nous expliquez, c'est que cette disposition que vous évoquez, oui, et les moyens de remédier à cette Non pas ce vide juridique, puisque Olivier Montaigne...
Non, il n'y a pas de vide juridique.
Mais cette situation qui fait que dans certains pays, on n'a pas les mêmes législations que dans d'autres, voilà. Et par conséquent, on peut faire des choses qui sont interdites.
Tout à fait.
Ce qui permet à ceux qui vivent dans les pays où c'est interdit d'accéder quand
absolument.
Même à ces choses-là. Mmh. Eh bien, le seul remède à ça, c'est la mondialisation.
C'est exactement. D'ailleurs, c'est un des objectifs des pseudo-problèmes juridiques qu'on évoque. C'est l'uniformisation du droit sur l'ensemble de la planète, en particulier par Internet, et en gros, en plus généralement, par tout ce qu'on appelle les problèmes globaux, c'est-à-dire tous les problèmes qui touchent l'ensemble de la planète. Alors, il n'y a pas simplement Internet. Il y a, par exemple, j'en parle dans l'Empire écologique, il y a beaucoup de questions écologiques. Et bien, tous ces problèmes globaux servent de véhicule à la mondialisation du droit, à l'uniformisation du droit sur l'ensemble de la planète.
Il y a une personne qui en a parlé formidablement dans les mêmes termes, c'est Mme Mireille Delmas-Marty, justement sur l'urgence de créer des règles qui puissent s'appliquer d'une manière, on va dire, uniforme dans l'ensemble des États.
Mais ça, c'est du totalitarisme à l'état pur, parce qu'on sait exactement ce qui va se passer. On sait que ce sont les pays dits développés qui vont imposer leurs normes, qui vont imposer leur, j'allais dire, leur histoire, puisque tout ceci est un processus historique. Tous les pays sont partis de là où sont les autres pays, c'est-à-dire d'un droit finalement relativement léger, et le droit est devenu de plus en plus totalitaire. Donc le processus qui va s'imposer, c'est celui-ci, c'est celui qui s'est imposé aux États-Unis, c'est celui qui s'est imposé au Canada, en France, qui est en train de s'imposer en Angleterre, en Allemagne, et donc c'est ce processus qu'on veut hâter et qu'on veut imposer sur l'ensemble de la planète. Donc voilà ce que l'on veut faire, et ces problèmes, cette uniformisation du droit, n'est en fait qu'un accélérateur d'un processus totalitaire, d'un totalitarisme juridique, et qui est un totalitarisme très très fort, parce qu'il mélange deux notions qui sont bien distinctes, dommage que le docteur Dorn ne soit pas là, qui est la notion de bien et la notion de droit. Et
droit n'est pas bien, et justement, tout ce qui est bien n'est pas le droit.
Comme on sait que la justice est un équilibre entre deux nécessités, je le dis souvent à mes étudiants, d'une part, premier plateau de la balance, le respect des droits des personnes, des libertés individuelles, deuxième plateau de la balance, le respect de la règle de droit. Mais dans notre pays, dans notre beau pays, on a oublié deux choses. On a oublié que la loi, c'est pas une loi individuelle, elle s'applique à tout le monde. Et que personne, je dis bien personne, et j'inclus beaucoup de gens dans ce cas-là, n'est au-dessus des lois. Et si tout le monde respectait ça, ce serait extraordinaire.
Attendez, alors j'ai une nuance à apporter, parce que ça c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, la question de l'universalité des lois. À l'heure actuelle, ce que l'on constate, c'est que les lois... s'applique à de plus en plus de gens. Et la lutte contre la corruption, qui a été mondiale, puisqu'elle n'a pas concerné simplement la France, mais elle a concerné l'Italie, ça c'est bien connu, elle concerne aussi les États-Unis, il suffit de voir ce qui s'est passé avec Bill Clinton, elle a concerné également le Japon, l'Espagne, etc., de très nombreux pays développés. Cette lutte contre la corruption, et donc plus généralement cet état de droit dont on nous rebat les oreilles, vise à soumettre le pouvoir politique à d'autres pouvoirs, en particulier au pouvoir juridique et au pouvoir législatif, et à ceux qui font le pouvoir législatif. Alors, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de groupes de pression qui font les lois les plus importantes. Donc ce que l'on est en train de faire par ce biais, c'est qu'on est en train de soumettre le politique, le monde politique, au législatif, en lui interdisant, d'une part, de passer au-delà des lois, et d'autre part d'avoir l'indépendance financière qui était la sienne quand la corruption existait. Et donc, par ces deux biais-là, on fait disparaître le politique dans son autonomie, même si c'était une autonomie qui n'était pas glorieuse. Et il est bien entendu que mon propos n'est pas de justifier autant la corruption que l'illégalité, mais simplement de dire que dans un système mondialiste dans lequel le pouvoir est en train de se concentrer entre les mains de la finance, de l'économie et des institutions internationales, eh bien, le pouvoir politique national est en train de disparaître par de nombreux biais, dont celui que je viens d'évoquer. Alors, effectivement, ce que vous dites, c'est tout à fait exact, mais j'ai envie de dire, dans la situation politique qui est la nôtre, qui est celle d'explosion du pouvoir politique français, le diminuer ainsi, c'est pas, même si éthiquement c'est bien, politiquement ce n'est pas forcément habile.
Alors, puisque Victoria ne le fait pas, je vous signale que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal du mercredi, et que je reçois...
C'est difficile d'en placer une chez vous.
Et que je reçois, alors, de gauche à droite, Jean-Paul Gilly, qui est fondateur d'Atlas Contact, qui est un site internet essentiellement dévolu aux questions de l'emploi, offre et demande d'emploi, enfin publication de curriculum vitae, ça on en reparlera dans une prochaine émission plus longuement, mais si vous voulez entrer en contact avec Jean-Paul Gilly et Atlas Contact, vous pouvez le faire par internet bien sûr sur atlascontact.fr, c'est ça ?
Atlascontact.net.
.net, pardon.
Il suffit de taper
Atlas Contact.net
en minuscule,
voilà,
Atlas Contact
en un seul mot.
.net.
N-E-T.
Voilà. Et le téléphone.
Alors, et le téléphone, notez-le s'il vous plaît.
C'est le 01 48 35 06 75. Je répète, 01 48 35 06 75.
Oui, un auditeur fait effectivement remarquer, je voulais le dire tout à l'heure, qu'il y a des logiciels de filtrage automatique qui expulsent les sites, donc par exemple NetNanny, qui veut dire la nourrice en quelque sorte. Bon, ça marche pas tout le temps, mais c'est quand même un début de protection pour protéger les enfants. Je crois que la meilleure protection, encore une fois, c'est que les parents s'occupent.
La meilleure protection, c'est certainement l'éducation.
Alors, pour ne pas rester sur ces questions, sur cette question, sur cet aspect de l'Internet, qui est quand même un aspect subalterne, et je voudrais alors donner la parole à Safouane Jabri, qui, lui, me paraît le type même de l'utilisateur d'Internet, qui montre à quel point cette technologie peut être positive et utile.
Ben, j'ai demandé à Safouane de venir pour aussi illustrer, alors à l'inverse de ce qu'on vient de dire, c'est que Internet aussi a des aspects extraordinaires, d'une part, et d'autre part que l'association Atlas n'est pas cantonnée dans des problèmes d'entreprise et d'emploi, mais que nous avons des liens et des amitiés avec des membres de notre association, bien entendu, et avec des projets auxquels nous aimerions participer le plus souvent.
Projet important.
Et donc j'ai demandé à Sofiane de venir parler d'une chose extraordinaire, c'est que de montrer que sur ce média du prochain millénaire, on peut parler intelligemment et faire des découvertes par rapport à des techniques qui datent du Moyen-Âge. Et peut-être même bien avant.
Alors, vous faites en ce moment, vous préparez une exposition sur Internet ?
Alors, tout à fait. Je m'appelle Safouane. Je voudrais tout simplement revenir, si vous permettez, sur le problème évoqué par Olivier et par
Monsieur Bernardin.
Voilà.
J'ai pas terminé les présentations tout à l'heure. Oui. Encore une chose. Donc, je disais Jean-Paul Gilly d'Atlas Contact. Pascal Bernardin, qui est l'auteur d'un livre capital dont on va parler après, qui s'appelle L'Empire écologique. Olivier Montet, qui est formateur en informatique et notamment sur Internet et qui travaille avec Jean-Paul Gilly, et donc Safouane Jabri, qui est informaticien, spécialiste des nouvelles technologies, spécialiste d'Internet et...
Et je reviens, si vous le permettez, sur ce petit problème. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait qu'on pouvait, par exemple, créer un site et l'héberger en Arabie Saoudite, et c'est un site qui parle, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, l'État français a le droit d'intervenir auprès de l'Arabie Saoudite pour interdire la diffusion de ce site, tout simplement.
Oui, mais en ce qui concerne ces questions, le monde est vaste. Il y a même des pays qui ne font pas partie de l'ONU, donc qui ne sont pas encore complètement...
Justement, l'Indonésie, par exemple. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, au fait, faire n'importe quoi
Internet. Non, mais j'en suis tout à fait
ça,
conscient.
C'est très, très
important. Mais sur la question des battues...
Il ne faut pas effrayer le monde. C'est-à-dire que
Mais sur la question des battues, qui est la question de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je sais que les pays arabes et la Chine... n'ont pas exactement la même vision.
Moins attentifs que...
Voilà.
C'est pas le pays, peut-être des personnes. Je veux dire, des personnes, par exemple, qui créent un site. Mais l'État français a le droit, il peut intervenir et demander donc à l'Arabie Saoudite d'interdire.
C'est pas pour autant que sur des questions éminemment politiques...
Pour d'autres sites aussi.
Des questions aussi éminemment politiques.
Voilà. C'est pas grave, c'était une...
Alors, en
une
tout cas, vous ne faites pas de politique, vous faites...
Non.
Vous avez un projet, vous travaillez un projet, vous mettez la dernière main à un projet qui...
Voilà. Alors, c'est-à-dire
très
que...
Très intéressant.
Disons que c'est... Bon, je suis membre d'Atlas Contact, bien sûr, et j'ai mis au point un site qui s'appelle sinecure.com. Alors, ça s'écrit sinecure.com, qui est un site de contenu, c'est-à-dire un site qui diffuse des films hors circuit. Et c'est un site également qui contient des rubriques, une rubrique d'emploi, c'est-à-dire les gens peuvent déposer leur CV, mais dans le domaine audiovisuel uniquement. Mmh. Et Sinécure a eu l'idée de mettre en ligne une exposition de calligraphie arabe. Alors, on va donc exposer un choix d'œuvres du calligraphe libanais Kamel Al-Baba, qui est très connu, dont les œuvres ont été exposées au mois de mai dernier, du 11 au 26 mai, organisées par le Premier ministre libanais. Et donc, pour nous, c'est en quelque sorte une suite de l'exposition de National, c'est-à-dire du Liban, vers donc une exposition internationale qui est Internet, enfin sur Internet.
Et c'est vrai que la calligraphie est un art qui se prête particulièrement à la technique de l'Internet, parce que Internet, c'est assez difficile de montrer une exposition de tableau sur Internet. On peut le faire, mais on ne peut pas appréhender vraiment la qualité d'un tableau. Je sais pas, enfin là, je parle sous le contrôle de Jean-Paul, qui est un artiste peintre.
Les tableaux, ça ne s'apprécie que lorsqu'on est devant.
Voilà, il faut être devant. En revanche, la calligraphie, c'est quelque chose qui convient très bien, parce qu'on peut, agrandir, par exemple, une lettre pour voir comment les travailler.
Absolument.
On peut regarder dans... et puis alors, la calligraphie arabe, qui est une des plus belles calligraphies du monde. C'est pas la plus belle, parce qu'il n'y a pas de concours là-dedans, mais là, c'est vraiment une calligraphie magnifique. Elle est particulièrement adaptée. Enfin, l'Internet est particulièrement
adapté à ça. Mais pourquoi ? Parce qu'au fait, contrairement à un tableau, la calligraphie arabe, est composée. Un tableau qui contient une calligraphie arabe est composé d'une encre noire sur un papier. D'accord ? Et bien sûr, il peut y avoir autour de ce qu'on appelle une sculpture, un genre de sculpture mosaïque de couleurs. Maintenant, on apprécie effectivement la calligraphie de par, au fait, le morceau de roseau que le calligraphe a choisi et a su tailler pour pouvoir écrire. D'accord ? De là donc, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'écriture dans la calligraphie arabe.
Alors, votre exposition, j'imagine, montre des calligraphies, mais elle doit aussi avoir des développements sur justement tout cet aspect technique d'explication, de démonstration, d'exemple.
Tout à fait.
Sur tous les aspects techniques, la fabrication des plumes, la fabrication des encres.
Ah oui, tout à fait. Alors, donc l'expo montre des œuvres infinies de ce calligraphe, de calligraphie.
Comment s'appelle-t-il, ce calligraphe ?
Kamel Al-Baba.
Et c'est un contemporain ou un...
Non. C'est un calligraphe donc, qui est né en 1905 à Saïda, à Beyrouth, et qui est mort il y a 5 ans maintenant.
Ah oui, donc c'est un quasi-contemporain.
Absolument quasi.
Parce qu'on a l'impression que la calligraphie est un art qui se pratiquait il y a des siècles, qui maintenant est un peu tombé en désuétude. C'est pas vrai
Si, c'est
pas vrai en islam, dans l'islam ?
Au fait,
dans les pays arabes.
Oui, parce que l'arabicité n'est pas synonyme d'islam, oui, et inversement, c'est vrai. D'accord. Il y a des chrétiens arabes, comme il y a des juifs aussi arabes. Au fait, les calligraphes, il n'y a pas que des calligraphes musulmans, il y a des calligraphes chrétiens. Chez les calligraphes chrétiens, au fait, quand ils écrivent, ils empruntent des passages de la Bible, enfin des évangiles, et également ils empruntent des passages du Coran. Et inversement, c'est vrai aussi. C'est-à-dire les calligraphes musulmans écrivent des passages des évangiles et également des passages du Coran.
Ouais. Alors, je vais vous demander, parce que là, on va donner la parole à Pascal Verdard de maintenant. Ce que je voudrais vous demander, c'est de nous donner l'adresse internet de cette exposition. Alors, vous nous avez dit Sinécure.
Alors, c'est Sinécure, C-I-N-E-C-U-R-E, sinecure.com.
Alors, il faut penser à Sinécure non pas comme un repos, mais comme une cure de cinéma. Hein. C'est ça.
Cinéma, tout à fait.
Sinécure.
C'est une cure de cinéma, une cure d'art, au fait. Mm-hmm. Parce que Sinécure allie l'artistique et le technologique. C'est-à-dire que la technologie, par exemple, de l'encodage du film, le Sinécure la maîtrise. Et on aide, nous, les artistes, à venir avec leurs films pour faire des acquisitions. Et ensuite pour encoder, pour les passer sur Internet.
Donc voilà, si vous voulez voir l'exposition qui a été mise sur Internet par Safouane Jabri, vous tapez sinecure.com et vous verrez se développer les merveilles de la calligraphie arabe.
Je peux rajouter juste une information, c'est qu'ils peuvent aussi nous joindre au 01 40, 43 11 22 33, je répète 01. 43 11 22 33 et demande Safouane, ou ils peuvent m'appeler chez Atlas Contact aussi, parce que je suis membre d'Atlas Contact également.
Merci.
Voilà.
Alors, Pascal Bernardin, vous êtes déjà intervenu parce que ça tombe bien que vous soyez venu ce soir. Il y a longtemps que je voulais parler de vous inviter à parler de votre livre, L'Empire écologique, mais comme vous êtes un informaticien, polytechnicien, un spécialiste de ces questions, ça c'est bien tombé. Vous avez pu participer à cette conversation et donner un éclairage particulier aux questions évoquées. Je signale que Jean-Paul Gilly et ou Olivier Monterre reviendront, qu'on traitera d'autres questions, et qu'effectivement on finira, parce que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous le demandent, par donner des conseils pratiques, c'est-à-dire quel matériel faut-il, qu'est-ce qu'il faut investir là-dedans, le moins possible bien entendu, selon le vieux principe d'économie, hein, sans publicité. Ouais. Hein.
Pour le matériel.
Non, mais vous n'en vendez pas, mais vous pouvez recommander. Oui. Il vaut mieux s'équiper en PC, bon, etc. Donc ça sera dans d'autres émissions. Vous serez obligé de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos passionnantes aventures. Voilà. Signalé comme calligraphe arabe contemporain, Hassan Massoubi, nous dit une auditrice qui apparemment maîtrise parfaitement ces questions, ce qui n'est pas mon cas du tout. Bien, alors. Pascal Bernardin, L'Empire écologique, c'est un livre qui est paru il y a maintenant 9 mois, 10 mois
Décembre 1998.
Qui a fait, au moment de sa sortie, beaucoup de bruit dans notre Landerneau à nous, parce que d'abord c'est un énorme travail, ensuite c'est un travail d'une très grande originalité, on a puis d'un très grande, grand courage aussi, parce que...
Grand courage, je le reconnais
toujours. En général, on se prosterne devant l'écologie, c'est bien, les écolos sont sympas, les verts sont mignons, etc. Donc tout va bien. Et puis vous avez dit que peut-être c'est pas exactement ça.
Non, c'est pas exactement ça. On peut prendre le problème peut-être d'une manière très simple, en se demandant pourquoi M. Cohn-Bendit, qui était complètement rouge, est devenu complètement vert. Alors bien sûr, on dit qu'il est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, et c'est finalement ce que j'ai, d'une certaine manière, essayé de montrer, c'est que sous le vert, il y avait beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge, et puis beaucoup d'autres choses aussi, que... j'allais dire l'offensive écologique multiforme à laquelle on assiste aujourd'hui, puisque tous les jours quasiment il y a un nouveau problème écologique qui est soulevé, une nouvelle réglementation, un nouveau scandale. Eh bien, j'ai voulu essayer de savoir si derrière tout ceci il n'y avait pas en fait d'autres choses, pas simplement des questions qui concernent le communisme, mais plus généralement la question du mondialisme, c'est-à-dire de l'alliance, tout au moins de fait, entre les post-communistes et les États-Unis, puisque très souvent on associe mondialisme et États-Unis. Donc je crois que ma réflexion s'est basée là-dessus. Qu'en est-il de la politique internationale aujourd'hui, suite à la chute du mur de Berlin? Qu'est-ce que le mondialisme et comment est-ce que l'écologie s'inscrit dans ces mouvements politiques?
Alors justement, en ce moment, on voit se manifester d'une façon lumineuse, apparente et voyante même, la réalité profonde de l'écologie en France, en tout cas, et en Allemagne, partout. C'est-à-dire, en réalité, c'est un avatar du stalino-trotskisme.
Oui, bien sûr. Donc là, c'est monsieur Cohn-Bendit.
Mais pas seulement.
Mais pas seulement, et d'ailleurs, madame Voynet également. On a simplement à faire une querelle de personnes entre ces deux-là. Donc d'une part, mais je crois qu'il faut également voir que toutes les questions écologiques s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle à proprement parler la mondialisation économique. Et je crois que ce sont ces deux aspects qu'il faut bien voir.
Il y a un autre aspect quand même qui est très intéressant, parce que voilà, justement, cette espèce de complicité du marxisme, stalino-trotskiste, on l'appelle comme on veut, avec le capitalisme international, le gros capital global, c'est d'abord surprenant.
Oui, enfin.
La deuxième chose qui est assez surprenante quand même, c'est la complicité proclamée, avouée, affichée des mouvements écologistes ou des personnes de l'écologie avec le gros capital pollueur. Je prends l'exemple du combat anti-nucléaire, qui est à l'évidence un combat qui est au service des plus gros pollueurs de la planète, qui sont les pétroliers.
Oui, ça, de toute manière, il est bien connu que les pétroliers ont financé... Là, je préfère ne pas m'avancer parce que je n'ai pas les preuves pour ce qu'il en est aujourd'hui, mais il est bien connu que, en particulier dans les années 70-75, les mouvements écologistes étaient financés par les pétroliers. Donc ça, c'est c'est documenté. Alors effectivement, on a cette collusion, cette convergence entre le capitalisme et le communisme. Et j'ai envie de dire, il en a toujours été ainsi.
Oui, ben votre cacola, c'est pas, voilà, c'est pas d'aujourd'hui.
Il n'y a absolument rien de nouveau à cela. La seule chose peut-être qui a changé, mais elle est très importante, c'est que l'opposition qui existait, l'opposition apparente, a disparu, et que maintenant nous sommes rentrés dans un nouveau système, qui est donc le système post-communiste, le système mondialiste, dans lequel le contrôle politique se passe autrement, dans lequel on peut avoir à la fois un très grand capitalisme, qui est le phénomène donc de mondialisation avec les concentrations du capital, et un phénomène de socialisation complète de la société, et là encore l'exemple, eh bien, c'est ce qui se passe en France, c'est M. Jospin qui privatise plus que M. Balladur. Et je crois que là, il y a encore un point sur lequel nous n'avons pas assez réfléchi. Comment se fait-il que M. Jospin, qui est un homme de gauche, dont on dit même qu'il a été trotskiste en son temps, comment se fait-il que ce soit lui qui privatise le plus? Et là, je crois qu'il y a des questions sur lesquelles il faut réfléchir et qu'on ne peut pas éviter. Et à force de ne pas vouloir répondre à certaines questions comme qu'est-ce que la perestroïka, que s'est-il passé, comment se fait-il que le mur de Berlin a pu tomber en si peu de temps, que l'Empire soviétique a pu s'écrouler du jour au lendemain. Comment se fait-il que la gauche française soit maintenant devenue libérale, voire ultra-libérale, puisque M. Jospin nous explique que M. Michelin ne peut rien faire d'autre que ce qu'il fait? Eh bien, là, je dis, ces questions-là, il faut les résoudre.
Et moi, alors, on va faire la coupure de 7h30, et on aura un petit quart d'heure après pour que vous donniez des pistes pour répondre à ces questions.
Voici un message de Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia.
Pendant longtemps, la diffusion de Radio Courtoisie a dépendu du bon vouloir des autorités du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Avec l'arrivée d'Internet, Radio Courtoisie peut désormais être écoutée partout en France et dans le monde. Une nouvelle innovation est désormais possible, la radio à la demande. Vous allez pouvoir choisir d'écouter l'émission que vous voulez, à l'heure qui vous plaît, et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, dans le métro ou dans votre voiture, dans votre maison de campagne ou chez vos enfants. Mais pour cela, il faut moderniser le site internet de la radio et surtout augmenter le débit de la bande passante. Il faut aussi numériser le trésor d'archives radiophoniques de Radio Courtoisie et retrouver de grands moments de radio avec Jean Ferré, Serge de Becquetch, Christian Langlois ou Pierre Chaunu. Pour cela, nous avons besoin de votre générosité. Pas seulement pour vous offrir davantage de facilités, mais aussi, mais surtout, pour permettre à Radio Courtoisie de conquérir de nouveaux publics. Parmi les plus jeunes, la radio s'écoute aujourd'hui à la demande sur le téléphone. Nous nous devons de répondre à ce défi technologique. C'est ainsi que nous transmettrons notre culture et nos valeurs, et que nous pourrons réinformer en tout lieu et en tout temps.
C'était un message de Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Soutenez Radio Courtoisie, envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou rendez-vous sur radiocourtoisie.net.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur les bouquets satellites CanalSat et TNTSat, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.fr.
J'espère que vous passez tous une excellente nuit à l'écoute de nos programmes. Vous allez pouvoir suivre maintenant la suite de ce document d'archives de Radio Courtoisie. Je rappelle qu'il s'agit du livre journal de Serge de Becketch, daté du 15 septembre 1999. Seconde partie animée par Daniel Amiche. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 3h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, vous écoutez un libre journal de Serge de Becketch, dirigé successivement par Serge de Becketch, assisté de Victoria, et par Daniel Amiche, assisté de Jacqueline. Émission datant du 15 septembre 1999. Cette émission est diffusée dimanche 9 octobre 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission a été réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bien, Victoria, vous avez des commentaires à faire avant de rendre la parole à Pascal Bernardin ?
Oui, j'ai plusieurs messages. On vous reproche de ne pas avoir fait allusion aujourd'hui à la condamnation des terroristes islamiques qui avaient posé des bombes à Paris en 95, qui avaient fait des dizaines de morts et des blessés.
Mais je ne le savais pas, tout simplement. J'ai pas beaucoup lu la presse depuis ce matin. J'ai eu d'autres
activités. Ils ont été condamnés, c'est très bien. Quelle est votre opinion sur la chanson du docteur Merlin, le blues du crucifié?
Bah, j'aime pas du tout cette chanson, bien sûr. Merlin a fait des choses merveilleuses, notamment les poèmes de Fresnes. Et puis il a fait des chansons que j'aime pas du tout, que mais je les écoute pas, c'est tout. Et je suis pas obligé d'écouter tout Merlin. Et je suis pas obligé d'aimer tout ce que font mes amis. Il y a une dimension de Merlin que j'aime pas du tout. C'est cette dimension païenne et antichrétienne. Elle me déplaît profondément. Mais il n'est pas plus antichrétien que Attali, par exemple. Bon, je suis l'ami de Merlin, je ne suis pas l'ami d'Attali, voilà.
Voilà. Alors, une petite blague pour détendre après cette question. Pour rebondir sur la blague énoncée à propos des fonctionnaires, savez-vous comment on appelle un fonctionnaire dans le secteur privé? Un Mikado. Parce que le premier qui bouge a perdu. Attendez, amicalement vous signe un fonctionnaire qui est un ami ardent de Courtoisie.
Non, parce que la prochaine fois on racontera des blagues sur un autre métier. Je voulais pas faire de peine aux fonctionnaires. C'est pour rire. Puis les fonctionnaires, finalement, c'est comme les belles-mères ou les percepteurs. On en dit du mal.
Vous donnez pas assez la parole aux auditeurs, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir lu pas mal de messages aujourd'hui.
Bon. Mais ça, je crois que c'est quelqu'un qui a un fax automatique qui envoie à toutes les émissions.
Oui. Pour aider Serge de Becketch, un auditeur suggère aux abonnés d'acheter un ou deux numéros et de les offrir à leurs amis. Et puis, alors, pour le prix d'Audet, il y a aussi une suggestion. Envoyez l'enveloppe timbrée qu'on envoie pour participer. On écrit dans le coin prix d'Audet. Cela simplifie le travail de ceux qui reçoivent le courrier. Voilà.
Ah bah oui.
Alors, le docteur Dor, tout à l'heure, n'a pas donné son adresse, on lui reproche. C'est des gens qui voudraient envoyer des dons à son association.
Ah bon, parce que c'est pour lui taper dessus, il suffit d'aller au coin de la rue des Rentiers, c'est pas la peine d'aller chez lui.
Il voudrait le soutenir en envoyant des dons à son association. Alors, c'est donc SOS Tout Petit, boîte postale 243-08, 75 364, Paris CEDEX 08. Je suppose que vous ne réussirez pas, vous n'aurez pas réussi à le noter. Par conséquent, vous le trouverez dans le Libre Journal.
36-15 Libre Journal. Ou même ailleurs, et dans le Libre Journal même. Simplement, je voulais dire, c'est très bien d'envoyer de l'argent au Docteur D'Or, mais à condition que vous soyez déjà abonné au Libre Journal.
Et en même temps, vous abonnez au Libre Journal et vous achetez un ou deux numéros pour les donner à vos amis. Bon, alors je rappelle que le SOS Tout Petit appelle à une prière publique de réparation pour les victimes de la clinique Jeanne d'Arc le samedi 25 septembre à 14h précise à l'angle de la rue du Château des Rentiers et de la rue de Tolbiac. C'est dans le 13e. Et puis le cercle Sol Invictus, le vendredi 24 septembre à 20h, ésotérisme chrétien des pères de l'Église au XXe siècle avec Jean Faure. Échange animé par Christophe Levallois et Arnaud Guyot-Janin. Ça se passe au Sein, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Participation aux frais, 40 francs. Et puis, le docteur Jean-Claude Pérez traitera du sujet suivant. La Toussaint Rouge, des origines perverses de la guerre d'Algérie. Ça se passe le samedi 2 octobre, de 15 à 20h, salle Saint-Pierre, qui est située en face du collège municipal et à la mairie, 121 avenue Peretti, avenue du Roule, 92 000 Neuilly. Voilà, oui. J'ai dit la date. Hein, oui.
Bon. Je voudrais, c'est une dame qui téléphone et qui me donne l'occasion de dire, je sais que ça ne va pas faire plaisir ce que je veux dire, mais je n'ai pas été mis sur terre pour faire plaisir. Cette dame dit, voilà, ça me paraît absolument caractéristique de ce qu'est le stalinisme. C'est la démonstration que le stalinisme existe aussi dans la droite nationale. Voilà. Le débat sur la multiconfessionnalité a fait l'objet d'une mise au point dans National Hebdo par M. Maréchal lui-même et Bruno Gollnisch. Toute autre explication est subjective et superflue. Voilà. On sait comment les prises de position du Front National sont toujours mal interprétées.
Par fil à gauche-gauche et
alors, d'abord, quand je dis que je publierai le texte de Bompard, le texte de Durbecq et le texte du directeur du FNJ, je ne dis pas que je donnerai une explication subjective et donc superflue. J'ai pas l'intention de donner une explication. Je fournis des textes. Voilà. Donc il y aura des textes. Comme ça, les gens qui n'auront pas eu suffisamment d'explications par le texte publié par National Hebdo de Maréchal et de Gollnisch pourront trouver dans le Libre Journal les textes, qui est quand même le plus important, puisque c'est ça qui a provoqué toute la polémique, c'est le texte de Bompard. Et les deux autres aspects de la polémique, c'est-à-dire, ou du débat, si vous préférez, le texte de Durbecq et le texte du directeur du FNJ. Voilà. Mais il n'y aura pas de commentaires. Il y aura une présentation, point à la ligne. J'ai pas l'intention de rentrer dans un débat qui, dans lequel je suis d'ailleurs pas du tout un arbitre, puisque moi je suis absolument partisan de la France chrétienne et même royale. Vous voyez, alors donc les questions de la démocratie, de la multiethnicité et de la multiconfessionnalité, je m'en tamponne, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est pas un sujet de discussion. La France est un pays chrétien, occidental, point à la ligne. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des Français qui soient protestants, orthodoxes, musulmans, mais ça ne doit pas être pris en compte par le pouvoir politique, puisque le pouvoir politique doit être entre les mains du roi, lieutenant de Dieu sur terre. Voilà ce que j'ai à dire.
J'ai aussi plusieurs questions à propos du pèlerin.
Alors, le pèlerin. Eh ben, le pèlerin est revenu, mais le pèlerin ne peut pas venir dans l'émission parce que le pèlerin a signé un contrat avec un éditeur, ou il est sur le point de signer un contrat avec un éditeur, et son agent lui a demandé de ne pas participer à des émissions de radio à des émissions de radio en dehors des émissions que lui programme, ou de télévision, enfin je sais pas. Alors comme il y a une émission de télévision qui serait en projet et un livre qui est en projet, eh bien le pèlerin ne peut pas venir à Radio Courtoisie. Et voilà. Enfin, c'est pour ça qu'il est pas ici.
L'auditrice qui a envoyé des timbres la semaine dernière pour recevoir le journal de Serge Lebeketch va le recevoir incessamment
sous peu, comme on dit élégamment.
Et puis quelqu'un, le dernier des derniers, inviterez-vous un jour l'éditeur qui a tenté de publier les mémoires d'Ulysse?
Alors là, plonk. Le blanc total.
Le bit total. Bon, ouais. Nous y penserons.
Ah non, le mensonge d'Ulysse, pas les mémoires, le mensonge du... Oui, d'accord. Mais non, on ne peut pas, c'est un sujet interdit, donc je ne vais pas... Je vais pas engager la radio dans des choses... voilà. Pascal Bernardin, alors, vous nous disiez, juste avant l'interruption de l'émission, que il y avait de nombreuses questions auxquelles on n'avait pas donné de réponse, hein, et qui tournaient autour de l'écologie, et d'ailleurs, questions qui sont résumées d'une certaine manière par un auditeur qui nous dit, au fond, le capitalisme et le communisme ont toujours été alliés, et simplement cette alliance, elle apparaît au grand jour aujourd'hui à travers le mondialisme, et c'est un bon outil d'analyse et d'explication des situations présentes. Et donc, le mondialisme, c'est l'autre nom de...
La convergence entre le capitalisme et le communisme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que cet auditeur dit. Alors, je m'emploie à le démontrer et à démonter les mécanismes donc de cette convergence, et aussi à montrer comment cette convergence est en fait l'écologie permet de contrôler le système mondialiste. Enfin, parmi les modes de contrôle, parce qu'il ne faut pas dire que ce soit le seul. Alors, je crois qu'il faut partir d'un constat de fait. Le constat de fait, c'est que, au premier niveau, c'est que nous vivons dans un système libéral, ultra-libéral, mondialisé. C'est-à-dire, le capital circule sur l'ensemble de la planète et peut se délocaliser du jour au lendemain. Bien, alors quelles sont les conséquences de ceci? La première conséquence, c'est que, comme je viens de le dire, le capital peut passer d'un pays à l'autre. Il va donc passer des pays dans lesquels la main-d'œuvre est la plus chère vers les pays dans lesquels la main-d'œuvre est la moins chère. Autrement dit, le capital se délocalise des pays riches vers les pays pauvres. Encore une fois, c'est un constat de fait, c'est ce qui se passe véritablement. Ce n'est pas un discours idéologique, ça c'est le premier point. Deuxième point qui est une conséquence immédiate du premier, c'est que la technologie qui sert à mettre en valeur ce capital, cette technologie, doit maintenant être exportée vers les pays en voie de développement pour que le capital puisse être rentable et puisse servir. Donc, encore une fois, on voit que tout ce qui est savoir-faire, know-how, ce qu'on appelle bon, le savoir-faire et tout ce qui est brevet, par ce mécanisme de mondialisation, passe des pays développé vers les pays en voie de développement. Bien, il en va de même pour un certain nombre de dirigeants qui sont forcés de s'expatrier pour aller des pays développés vers les pays développants, vers les pays en voie de développement. Alors on fait le bilan. Le capital s'exporte, le savoir-faire et la technologie s'exportent, et un certain nombre de dirigeants s'exportent. Alors ça, ces trois choses-là, ça portait un nom avant, ça s'appelait le nouvel ordre économique international. Mais c'était pas une revendication des capitalistes, c'était une revendication des tiers-mondistes. Or, on constate la chose extraordinaire suivante, c'est que le phénomène qu'on nous présente aujourd'hui comme étant le sommet du capital, du grand capital, le sommet de la mondialisation capitaliste, réalise précisément les objectifs du nouvel ordre économique international tel que les tiers-mondistes le réclamaient dans les années 70. C'est quand même un résultat merveilleux qu'il faut mettre en exergue, parce que sans quoi, si on ne part pas du résultat concret mais qu'on s'en tient au discours idéologique, on ne voit pas ce qui se passe.
Alors ça, c'est un diagnostic qui est très très solidement étayé, très largement étayé.
Oui, non, ça c'est pas discutable. Ça, c'est pas dit.
Et maintenant, pour conclure ce soir, la question qui s'impose, c'est ayant étudié la maladie, si j'ose dire, ayant compris ses origines, son développement, et être en mesure de prévoir ses suites et ses conséquences, et quel remède proposez-vous? Est-ce qu'il faut tuer les écologistes?
Non, tuer les écologistes, non. Ça, je crois qu'il y aurait beaucoup trop de gens à tuer, et un seul, ce serait trop encore. Mais je crois qu'il... Là, je suis obligé de résumer, parce que le temps nous manque, mais il n'y a malheureusement qu'une seule solution. Je dis malheureusement, parce que c'est une solution très difficile à mettre en œuvre, mais il faut les convertir, hein, puisque en vérité, l'écologie, comme je le montre dans mon livre, est en fait une religion, ce n'est pas simplement un discours économique.
Alors ça, c'est un aspect aussi qui est capital de votre livre, qui est passionnant, c'est cet aspect de la nouvelle religion mondiale.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, un tout autre sujet, nous parlions de la question des sectes. Alors, je crois qu'il faut bien voir que, dans la perspective mondialiste, la question des sectes est très très importante, parce que, comme je le montre dans mon livre, on veut parvenir à une religion mondiale. D'abord à une spiritualité globale, et ensuite...
Ce que l'abbé de Nantes avait prévu il y a 40 ans, quand il annonçait le Masdu.
Le Masdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. C'est ça. Exactement ça. Bien, là, je montre les textes qui sortent d'organisations internationales du plus haut niveau, qui montrent que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc il va falloir détruire les religions. Et quand je dis les religions, en premier lieu, bien évidemment, le catholicisme, puisque c'est l'une des plus grandes religions, et puis c'est celle de la vérité. Bon, et puis, accessoirement, il faudra détruire les autres. Bien, et le mouvement sectaire qui a en grande partie été créé par les services secrets, et là encore, ce sont des choses qui sont tout à fait documentées, eh bien, ces mouvements sectaires servent...
Bien sûr. René Barr, par exemple, le fondateur de la Scientologie, était un agent manipulé par les services spéciaux américains.
Il en va de même pour la secte Moon, le mandat Rome dans le Sud, enfin, etc. Bien. Donc,
mais le mandat Rome, c'était un évadé du cirque Pinder, je crois, c'est un peu différent.
je crois qu'il a reçu, je ne crois pas me tromper, il faudrait que je vérifie, mais je ne crois pas me tromper en vous disant qu'il a reçu, qu'il fut un temps où il a reçu la visite du consul général du RSS qui était à Marseille. Ah. Ce qui montre quand même que...
Le général du RSS peut aussi aller au cirque pour voir les clowns.
Donc voilà ce qu'il faudrait faire. Bon, pour résumer, je crois qu'à l'heure actuelle, le mouvement écologique est très très profond, ses ramifications sont infinies, et quand on voudra lutter contre l'écologie, on se trouvera en train de lutter contre en fait une religion, et je crois que la solution ne pourra être que d'ordre religieux. C'est un petit peu dommage, parce que ça radicalise complètement les problèmes, et d'autre part, ça met en jeu... Ça implique d'une certaine manière l'Église, avec tous les problèmes qu'on lui connaît, mais je crois qu'il ne faut pas, se tromper dans le diagnostic. La solution, à mon sens, passera uniquement par là. Alors, si on avait le temps, je pourrais vous parler de ce qu'il en est, par exemple, en matière de pétrole. Je pourrais vous expliquer quelle est la position des pays producteurs de pétrole, quelle est la position des pétroliers. Et vous verriez, dans ce cas-là, que loin de s'opposer des cas de fer contre cette politique donc écologique, eh bien, il transige. C'est tout, parce que les forces politiques sont trop importantes.
Tout ça dans votre livre, Pascal Bernardin, ça s'appelle « L'Empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme ». C'est paru aux éditions Notre-Dame-des-Grâces, c'est en vente dans toutes nos bonnes librairies.
Dans toutes les bonnes librairies.
Et c'est vraiment un bouquin tout à fait remarquable.
Quel est le prix ?
Le prix est de 145 francs.
145 francs, ce qui est très peu cher. Non, c'est pour un livre qui fait 600 pages,
oui.
dans un format assez important. Je vais maintenant laisser la place, c'est pour ça que je vous coupe la parole, à des gens qui sont en quelque sorte des écologistes politiques, puisque ce sont les légitimistes, mais c'est des bons écologistes. Et donc, parce que avant qu'ils se mettent en colère, avec
Amine, je
me méfie quand même, parce que sous ces dehors, tout sâtre. Il y a quand même des gènes qui parlent. Et il aurait l'égorgement facile que ça ne m'étonnerait qu'à moitié.
Ou la ruade.
ou la ruade. Merci Pascal Bernardin. Merci à l'équipe d'Atlas Contact.net d'être venu nous expliquer les mystères de l'Internet. On y reviendra la semaine prochaine certainement. D'ici là, je laisse la parole à Daniel Amiche et à C'est fou du roi. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent pour cette deuxième partie, traditionnellement amputée d'un petit quart d'heure, mais enfin nous avons l'habitude. Alors ce soir, nous avons trois invités, j'attends, je sais pas si Jacqueline va venir peut-être nous assister, enfin, bon, elle va arriver, ça y est, là voilà, elle arrive, Jacqueline arrive, alors je voulais quand même la saluer et la remercier d'officier ce soir. D'officier pacifiquement à cette émission et prévenir aussi nos auditeurs que nous n'avons qu'une personne pour prendre les messages ce soir, donc il faudra que le message à mesure du possible soit bref et concis si l'auditeur souhaite que nous y répondions. Alors nous avons trois invités ce soir. D'abord Jean-Patrice Brosse, que connaissent bien nos auditeurs puisqu'il est déjà venu plusieurs, je sais pas, 4-5 fois non, au moins, non.
Oui,
genre moins 4-5 fois, facilement, hein, qui est directeur du Concerto Rococo, président de l'Institut du siècle des Lumières, et qui vient nous parler, plus particulièrement, d'une série de concerts et d'un nouveau disque qui va apparaître d'ailleurs, de Claude Balbastre, qui est un compositeur de grand talent, mais fort méconnu, et qui a eu la grâce de mourir en 1799, ce qui fait que nous pouvons cette année célébrer le zombicentenaire, ce qui est quand même... Non, c'est utile quand même.
C'est utile, c'est un point de vue. Bon.
Et puis nous recevons également Philippe Delorme, que connaissent aussi nos auditeurs, puisqu'il est invité dans beaucoup de journaux, y compris ici. Oui, c'est vrai, vous venez assez souvent.
Oui, quand même, régulièrement.
Philippe, hein. Oui, oui. Alors, qui est historien.
Il fait beaucoup de livres aussi.
Il fait quand même beaucoup de livres. Ses derniers livres, d'ailleurs, on peut citer, c'est Anne d'Autriche.
Ah, une série sur les reines de France, voilà, donc il y a Marie de Médicis et Anne d'Autriche, et bientôt Marie-Antoinette pour la fin de l'année.
Donc, alors ça nous donnera l'occasion de nous revoir avant Noël, ou avant les étrennes, ou pour les étrennes. Mais ce soir, il ne vient pas nous parler d'un livre, il ne vient pas nous vendre un livre en vérité, il vient nous parler d'une opération très émouvante qu'il a initiée avec d'autres personnalités, qui consiste à faire l'analyse ADN d'un cœur qui est conservé à la basilique de Saint-Denis à Paris, mmh, et qui est supposé être le cœur de Louis XVII. Alors c'est une affaire tout à fait extraordinaire, assez même rocambolesque, presque trop rocambolesque pour que ce soit faux, mais en même temps, nous allons voir dans quel esprit vous abordez cette analyse et en quoi les auditeurs qui sont intéressés par cette question, et Dieu sait s'ils sont nombreux à être intéressés par cette question, pourraient s'associer à cette analyse, quels qu'en soient les résultats. Et puis nous recevons également Georges Poisson, qui est conservateur général du patrimoine, mais qui est historien et avec lequel nous allons nous entretenir d'un livre volumineux mais passionnant qu'il a fait sur les Orléans, une famille en quête d'un trône, et qui est une reprise mais vraiment augmentée, remaniée totalement d'un livre publié il y a presque un quart de siècle maintenant qui s'appelait Cette curieuse famille d'Orléans. La famille est restée très très curieuse, mais là vous avez changé le sous-titre, je trouve aussi tout à fait intéressant. Voilà Jacqueline, donc je vous remercie d'être avec nous, et nous allons commencer par un petit cadeau à nos auditeurs, qui l'ont bien mérité, parce qu'ils ont été très très sages, et nous allons leur passer bien un extrait d'un nouvel album, comme on dit en termes de discographie, de Jean-Patrice Brosse. Il s'agit d'un nouvel enregistrement de pièces de clavecin du premier livre de Balbastre, qui n'est pas encore sorti, donc c'est une avant-première. Personne ne l'a encore entendu sur aucune radio, sur aucune télévision. C'est les auditeurs de Radio Courtoisie qui vont écouter. Alors, vous nous dites un petit mot peut-être de présentation sur l'air que nous allons entendre. Nous allons entendre un petit extrait.
Oui, ça s'appelle La Suzanne et c'est un portrait d'un personnage. On n'a pas identifié en réalité qui était La Suzanne, sans doute une amie ou un ami de Claude Balbastre, donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Ah oui, nous sommes battus l'autre jour. Vous dites Balbastre, vous, hein?
On dit Balbastre, oui.
Bon, et moi je dis Balbastre, mais j'ai tort sans doute.
Mais je crois qu'il y a un poème de Voltaire où ça rime avec idolâtre.
D'accord.
Donc il y a assez peu d'ambiguïté.
Alors je le dis, ça écrit Balbastre et ça se prononce Balbastre. Eh bien nous allons écouter cette Suzanne. Ben moi, je suis encore sous le coup de l'émotion de ce morceau extraordinaire. D'abord, c'est une très très belle composition qui est bien jouée, parce que je crois que c'est vous qui êtes derrière le clavecin, devant le clavecin. Alors, comme d'habitude, ça, c'est pas une surprise. Et le clavecin sonne magnifiquement. C'est un instrument superbe, superbe. Un qui a échappé à la fureur des révolutionnaires, parce qu'ils en ont brûlé quelques centaines.
Il y en avait pas mal de brûlés, mais ce clavecin a été transformé en barre.
Oh mon Dieu.
Oui, on a supprimé la table qui était au fond, la table qui était donc dans le clavecin, on l'a mise au fond du clavecin et on a mis un bar, puis des petits soldats de plomb, je crois que ça servait de vitrine aussi. Et bon. Voilà. Donc et il a été restauré magnifiquement il y a 20 ans.
Alors, Jean-Patrice Brosse, directeur du Concerto Rococo, président de l'Institut du siècle des Lumières, à ne pas confondre avec une officine maçonnique, hein, ça n'a strictement rien à voir.
Ah non, pas du tout, c'est de la musique de l'époque des Lumières.
Absolument.
Non, je précise. On ne fait que de la musique.
Nous avons des auditeurs soupçonneux, donc il faut toujours préciser les choses. Et puis vous êtes aussi le directeur artistique du Festival du Comminges, dont vous êtes venu aussi nous entretenir. Alors parlez-nous un peu. Parlez-nous de Balbâtre. Alors, qui est ce Balbâtre qui est mort il y a 200 ans?
Voilà, 200 ans, 99. C'était une très grande célébrité à l'époque. C'était quelqu'un qui venait de province, qui était Dijonnais, et qui a été très très vite introduit dans les milieux aristocratiques à Paris. C'est quelqu'un qui savait y faire, qui avait beaucoup d'ambition, qui était très opportuniste, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et en quelques années, grâce à Jean-Philippe Rameau, qui était un petit peu son protecteur, son maître en clavecin, en tout cas à Paris, grâce à Rameau, il a connu...
Je crois qu'il a travaillé avec... Le frère de Rameau.
Oui, il avait travaillé avec un autre Rameau à Dijon, exactement. Ouais. Et grâce à Rameau, il est très vite devenu une célébrité à Paris. Ça a très vite été la coqueluche de tout un monde, dont les encyclopédistes d'un côté, avec Madame du Deffand, par exemple, qui en parle beaucoup, avec Voltaire, et puis tout le monde de l'aristocratie parisienne, de la grande aristocratie, qui s'arrachait absolument Balbâtre. Et puis, en tant que musicien d'église, il était organiste à Saint-Roch, puis organiste à Notre-Dame. En tant que musicien aussi, il attirait énormément les foules, à tel point que l'archevêché, plusieurs fois, a interdit Balbâtre de jeu à Noël et puis pour des Tédéum, parce que...
Les gens venaient pour la musique et pas pour l'office.
Voilà, et il y avait tellement de monde que la rue Saint-Roch était pleine, il y avait des encombrements partout, il a fallu interdire de jeu Balbâtre. C'est assez amusant. Alors, il a eu donc une carrière tout à fait extraordinaire, à la fois comme compositeur, comme interprète, comme improvisateur. C'était un personnage incontournable, tout le monde venant à Paris de l'Europe entière venait voir Balbâtre obligatoirement. En plus, c'était un type absolument épatant, extrêmement sympathique, tous les portraits, toutes les descriptions qu'on a en font un personnage extrêmement extrêmement charmant. Et à la Révolution, après avoir travaillé pour l'aristocratie, évidemment, il a changé un petit peu de son fusil d'épaule, et puis il est entré dans les comités révolutionnaires. Pour sauver sa peau, je suppose. Et à ce moment-là, d'ailleurs, grâce à lui, la plupart des orgues qui sont aujourd'hui à Paris sont encore à leur place.
Bon, regrettons qu'il soit entré dans ces pandémoniums, mais saluons quand même la mémoire de ce musicien qui a réussi.
Tout à fait.
Parce que tout ça devait partir en feu de joie.
Et alors, il a été très habile parce qu'il a été délégué donc par le comité de salut public pour décider quels étaient les instruments qu'il fallait détruire, sachant qu'il fallait en détruire un maximum. Et Balbâtre a envoyé une lettre tout à fait merveilleuse qui se trouve à l'Arsenal encore aujourd'hui, je crois, dans laquelle il dit, je suis tout à fait d'accord avec le comité de salut public, il faut absolument tout détruire, tout ça, ce sont d'une société qu'il faut anéantir. Ceci dit, néanmoins, on pourrait peut-être conserver tel instrument. Il donne la liste de 15 orgues qui ont été conservés grâce à lui. Et malheureusement, il est mort dans la déchéance, je crois. Enfin, il n'avait plus d'argent du tout. Il était complètement oublié.
Bah, et dire aussi l'époque de 93 à 99, pas vraiment une grande époque de composition musicale.
Il a dû y avoir pas mal de choses.
Des marches, des...
Non. On a continué à écrire de la musique de chambre qui est encore à découvrir. On a beaucoup écrit.
Je pensais qu'il y avait éteint.
Pas du tout, non, il y a des quatuors.
J'espère que c'est de meilleure qualité que le théâtre, parce que comme le théâtre de l'époque est quand même.
Oui, le théâtre est assez médiocre, mais la musique.
C'est plus que médiocre.
Elle est encore à découvrir, j'ai l'impression. Elle est encore à découvrir.
Alors, parlez-moi un peu de Balbâtre du point de vue de la musicologie, parce que là, la pièce que nous venons d'entendre est de 1759. Voilà. Donc c'est vraiment le milieu du siècle, c'est encore Louis XV. On a senti dans un passage quand même une influence de Rameau,
en tout cas.
Je dirais pas une thématique de Rameau, mais un style Rameau, que le style de Balbâtre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, extrêmement reconnaissable.
Ça, c'est dans le style de la Dauphine,
il n'y a aucun problème. Oui. Qu'est-ce que cet homme a apporté à la composition musicale et à la musique française-européenne?
Alors justement, c'est un petit peu la charnière entre la musique baroque, qui vient de s'arrêter, puisqu'en 1759, Bach est mort il n'y a pas très longtemps, Handel aussi, Rameau est à la fin de sa vie, Couperin il y a longtemps, Scarlatti est mort également. Donc c'est vraiment l'époque transition entre la grande époque baroque française, si on peut dire, si on peut appeler musique française baroque, et puis ce qui sera le romantisme au début du siècle suivant. Et donc c'est une sorte de période de transition où le matériau est encore baroque, où on se sert encore de la structure baroque, de la construction baroque, mais où on exprime des choses déjà tout à fait autres. Et ça, c'est une période, je trouve, passionnante pour ça. Il y a un autre compositeur comme ça qui s'appelle Schaubert, qui était silésien d'origine et qui s'est installé à Paris, qui a vécu 700 à Paris, et qui a écrit des choses tout à fait extraordinaires d'un romantisme qu'on ne retrouvera pas avant Schubert, par exemple. Mais c'est un petit peu une prémonition de ce que sera le 19e siècle, avec toujours le matériau baroque. Et je trouve que c'est une chose tout à fait passionnante, ça. Cette espèce de d'éclatement de la pensée du musicien de cette époque-là, qui va vers un monde qu'il ne connaît pas encore, qui a envie d'exprimer des choses. C'est l'époque de Werther, hein, de Goethe. C'est aussi une époque d'un romantisme tout à fait extraordinaire.
Oui, pré-romantisme, oui.
Qui d'ailleurs n'aboutira pas tout de suite au romantisme. Il va y avoir la période classique entre les deux. Il va y avoir Mozart, Haydn, et puis les débuts de Beethoven, qui sont classiques, et ce romantisme va être étouffé, finalement. Mmh. Et puis va renaître, évidemment, au 19e siècle.
Oui. De façon très, très puissante. Mais écoutez, je vais demander à nos auditeurs de se munir de l'inévitable crayon et du bloc de papier, puisqu'on va leur faire deux annonces. La première, c'est pour rappeler que vous allez donner au musée de la chasse, en septembre, en octobre et en novembre, trois concerts par le Concerto Rococo de Balbâtre. Alors, quelles vont être les œuvres que vous allez interpréter?
Alors, c'est l'essentiel de la musique de chambre de Balbâtre, donc en trois concerts, dans ces salons extraordinaires que sont les salons du musée de la chasse. C'est d'une beauté fantastique, tout est meublé, Louis XV, c'est somptueux, c'est absolument somptueux, c'est pas très grand, c'est juste ce qu'il faut pour cette musique-là, puisque Balbâtre écrivait pour Mademoiselle de Lamoignon, par exemple, qui habitait juste à côté, rue Pavée, enfin, dans l'actuelle Bibliothèque historique de Paris, je crois, qui appartenait au Malesherbes, si je ne me trompe.
Oui, tout à fait.
Et donc, tout près de là, au 60 rue des Archives, au musée de la chasse, donc dans cette très belle demeure, on va donner trois concerts, donc 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre, trois mercredis, des concerts au cours desquels moi je vais jouer donc le livre de clavecin dont on vient d'entendre un extrait, les quatre livres de Noël, puisqu'il a écrit des Noël pour orgue ou pour pianoforte ou pour clavecin, qu'on jouait beaucoup au XVIIIe siècle, qui sont plus tardifs, qui sont 1774, je crois, enfin peu importe, un petit peu plus tard. Et puis les quatuors, les fameux quatuors, qui sont en fait des sextuors avec corps, deux corps, deux violons, un violoncelle et clavecin. Donc c'est l'essentiel de la musique de chambre de Claude Balbâtre.
Alors le seul dommage, c'est que ce soit le mercredi soir, parce que c'est
oui, exactement. Oui,
alors c'est quand même
extrêmement ennuyeux. Des retardataires, c'est vraiment à cause de vous.
Donc voilà, donc je rappelle, alors, les trois concerts, mercredi 29 septembre.
Non. Mercredi 24 novembre.
Ah, 24 novembre, oui, ça je l'ai.
24 novembre, 1er décembre et 8 décembre.
Ah d'accord, 1er décembre, alors ça je ne les ai pas ceux-ci. Donc voilà. Alors, si vous voulez, pour être plus clair, on va donner à nos auditeurs un numéro de téléphone où ils pourront se renseigner, avoir les conditions. Enfin, d'ailleurs, c'est pas très très cher. Hein, je veux dire, les prix des places sont assez c'est très modérés.
Et sur des soirées très divertissantes, au cours desquelles il y a d'abord une visite du musée de la chasse. Il y a mille choses à voir par le conservateur, par Claude Dantenès, qui est conservateur du musée de la chasse. Ensuite, il y a le concert de clavecin qui dure une petite heure. Et puis après, il y a un
rafraîchissement. Voilà. Et puis alors bon, après ce que je vois, enfin, c'est pas
du
Coca-Cola. Donc ça, c'est quand même très très bien. Alors, je vais donner le numéro de téléphone où nos auditeurs pourront se renseigner. C'est le 01 47 78 72 07. 01 47 78 72 07. Ça, c'est le téléphone de l'Institut du siècle des Lumières. En principe, il y a quelqu'un, c'est pas quelqu'un. De toute façon, il y a un répondeur. On entend une voix de dame charmante qui nous dit « Nous sommes absentes », etc. Ça, vous laissez votre téléphone, on vous rappelle. Donc, c'est au musée de la chasse. Donc, les mercredis 24 novembre et ensuite 1er... Et
8 décembre.
Et 8 décembre. Très bien. Parce que moi, j'ai pas le même communiqué de presse que
c'est
vous.
Possible, il y a eu des changements de date, il y a des travaux, mais j'ai de la chance, peu importe.
Je tremble. Alors, je voulais également, à la Fondation, alors, un autre endroit très, très charmant aussi, la Fondation Donne-Tire, c'est quand même très, très beau.
C'est très beau.
Alors là, vous allez donner, un risque, enfin, c'est le cycle hein, le clavecin parisien au XVIIIe siècle. Vous allez donner la troisième saison va être consacrée à Nicolas Pancras Royer. Alors je dois reconnaître à ma grande honte que je ne sais pas qui est ce Royer là.
C'est un compositeur, encore un compositeur invraisemblable du XVIIIe siècle qui est très très peu connu, qui est connu des spécialistes, des clavecinistes et qui est tout à fait extraordinaire.
Époustouflant aussi.
Époustouflant d'imagination. Il y a trois ou quatre pièces chez Royer qui sont complètement hors normes, enfin qui ne ressemblent à rien du tout au XVIIIe siècle. Super. Une virtuosité éblouissante. Et puis des pièces très sensibles, extrêmement belles. Enfin, c'est un compositeur tout à fait passionnant que les clavecinistes aiment beaucoup en général.
Alors là, ce sera le mercredi 27 octobre.
Le 27
Encore
octobre.
Encore un mercredi, voilà. N'est-ce pas? Mais là, 20h30. Donc on peut, à la limite, c'est tout mon émission, aller écouter. Alors là, ça se passera à la Fondation Donne-Thiers et Place Saint-Georges. C'est aussi une très très belle, oui, très, oui. Très belle ensemble. Donc toujours même le téléphone 01 47 78 72 07. Donc je rappelle à nos amis auditeurs qu'ils sont sur Radio Courtoisie, qu'ils peuvent nous envoyer des messages, des questions au 01 46 51 00 85. Chère Jacqueline, je me tourne vers vous parce que je vois vous ajuster vos...
Mes lunettes.
Bon, excusez-moi, c'est pas très élégant de ma part, mais enfin bon, nous en sommes tous là.
Oui, je ne suis pas à ça près. Alors un auditeur qui dit...
Par contre, vous avez très beau temps, ça je vous reconnais, c'est vraiment les vacances nous ont beaucoup profité à vous.
Merci. Gretry a écrit des symphonies au caractère romantique très prononcé en plein XVIIIe siècle.
Oui. On peut dire que c'est vrai, Gretry, on peut dire que c'est un peu opportuniste au plan politique, mais c'est un très très bon compositeur, il a fait de très très belles choses, Gretry.
Oui, il rejoint tout à fait cette école dont nous parlions, cette école pré-romantique.
Je crois qu'il a travaillé, lui, il a vécu très longtemps, il a travaillé pour, je crois qu'il a travaillé pour la restauration, Gretry, il me semble, il a dû faire quelque chose, non? Oh, il a dû faire quelque chose. Il a dû faire des petites choses
de
restauration. Approchez-vous, monsieur Poisson, approchez-vous du micro. Il habitait à Montmorency dans la maison Brousseau.
Oui, vécu Jean-Jacques Rousseau.
Bon. Merci Jean-Patrice Bott, vous restez avec nous parce qu'on va encore discuter d'un certain nombre de thèmes qui vont sans doute vous passionner. Alors je me tourne à présent. Alors je rappelle donc le prochain disque qui va paraître dans quelques 3 semaines de Claude Balbâtre. Ce sont des pièces de clavecin, premier livre. Chez Pierre Verani, évidemment, mais nous ne pouvons pas encore donner le numéro du disque, il n'est pas encore catalogué, donc nous ne l'avons pas, on fait écouter en quelque sorte de la musique en catimini. Merci beaucoup. Alors, je me tourne à présent vers Philippe Delorme.
Bonjour.
Qui vient ici nous parler d'un thème qui est à la fois un thème très... très poignant, très passionnant pour l'historien, très remuant pour les Français normalement constitués. Il s'agit de ce cœur de Louis XVII, supposé être conservé actuellement à la basilique de Saint-Denis, mais propriété du Mémorial de France à Saint-Denis, je pense, depuis 1976, qui a connu des pérégrinations absolument époustouflantes, rocambolesques, et que vous vous proposez de faire expertiser par les méthodes les plus assurées de la science pour être bien sûr qu'il s'agit là du cœur de l'infortuné petit roi.
Oui, donc c'est le cœur qui, enfin, en principe, il faut mettre beaucoup de points d'interrogation dans cette affaire, mais disons que a priori, c'est le cœur qui a été prélevé le 9 juin 1795, donc le lendemain de la mort de l'enfant du temple, par le docteur Pelletan, qui était donc le médecin qui a soigné l'enfant pendant les derniers jours et qui a procédé à l'autopsie. Et donc ce cœur est resté dans la famille de Pelletan, alors avec des tas d'épisodes et d'aventures rocambolesques au cours du 19e siècle. Et finalement, ce cœur a donc été, à la fin du 19e siècle, en 1895 exactement, remis au duc de Madrid, qui était donc le prétendant carliste à la fois au trône d'Espagne et au trône de France à l'époque, qui possédait le château de Froschdorf. Et ce cœur a donc, ce cœur momifié, donc est resté à Froschdorf en Autriche jusqu'en 1975 ou 1976, je ne sais plus exactement. 76. À quelle date donc il a été remis 75. Par les descendantes de... par les héritières de Don Carlos, il était remise au Mémorial de France à Saint-Denis, qui donc le conserve maintenant dans une des cryptes de la basilique, dans un endroit tout à fait, je dirais, approprié, parce que c'est derrière une grille avec des cercueils qui sont déposés sur des tréteaux, cercueils de la famille de Condé en particulier. Et donc, sur une étagère, on a une urne en cristal, dans laquelle pend une sorte de viscère momifié au bout d'un fil qui est donc ce cœur on peut l'imaginer, ce cœur de l'enfant mort au temple.
En tout cas,
nous allons analyser.
Pour le savoir, il faut l'analyser. Okay. Même si des contestations se lèveront, comme elles se sont déjà levées au moment de l'analyse ADN qui était faite sur un fragment d'os de Nondor, justement, puisqu'il y avait controverse sur l'identité.
Donc, le professeur Cassiman, qui est donc le spécialiste de la question à l'Université de Louvain en Belgique, a déjà procédé à l'analyse d'un os de Nondor, qui a été comparé à l'ADN des sœurs de Marie-Antoinette. Donc on possède là, quelque sorte, le code-barre de Marie-Antoinette et des Habsbourg, et on va le comparer, donc, si on peut trouver de l'ADN dans ce cœur, parce qu'il n'est pas absolument sûr, étant donné les conditions de conservation, qu'on puisse y trouver encore de l'ADN utilisable, mais on va essayer de comparer ces deux ADN, et à ce moment-là, effectivement, si on a une concordance, là, il n'y a plus de problème. C'est bien le cœur de Louis XVII et c'est bien le cœur de l'enfant du Temple. Et l'enfant du Temple était bien Louis XVII et il n'y a pas eu de substitution, il n'y a aucun problème.
Et on en finit avec l'histoire.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où ce cœur donnerait un ADN qui ne serait pas celui des Habsbourg, on pourrait continuer à se poser des questions, mais ça ne signifierait pas que Louis XVII n'est pas mort au temple, parce que effectivement, au cours du XIXe siècle, cette relique donc est restée dans la famille Pelletan, mais a été à un moment dérobée, ensuite a été déposée à l'archevêché de Paris et profanée au moment de la révolution de 1830, au moment du sac de l'archevêché en 1831. Donc on l'a récupéré, le fils Pelletan l'a récupéré dans des conditions véritablement rocambolesques. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de pointillés dans l'aventure de ce cœur qui fait que on n'est pas absolument certain que c'est bien celui qui a été prélevé en 95. Enfin, c'est quand même une analyse, je crois, à faire qui nous permettra d'avoir peut-être une réponse enfin à une des plus grandes énigmes, plus agaçantes et lancinantes énigmes de l'histoire de France.
Pour moi, il n'y a pas énigme, mais je comprends que certains auditeurs sont très nerveux sur cette question. Enfin, toujours est-il qu'il y a autant on est assuré que l'objet, appelons-le l'objet, ou la relique si l'on veut, enfin l'objet qui est actuellement visible aujourd'hui, en 1999, on est à peu près assuré de la continuité de sa transmission de 1831 à nos jours. En gros, c'est ça. C'est depuis que le fils de Pelletan l'a donc récupéré après le saccage du palais de l'archevêché. Ils l'ont récupéré grâce à un ouvrier typographe, je crois.
Oui, c'est
un petit peu compliqué. Donc, le problème, d'un point de vue purement historique, finalement, c'est la période précédente. C'est la période qui va de la mort de Louis XVII à la récupération sur un tas de sable de ce cœur momifié.
C'est-à-dire que le docteur Pelletan vole ce cœur sur le cadavre, le met immédiatement dans un bocal d'eau de vie, d'alcool.
D'abord, il le roule,
D'abord dans sa poche.
Ce qui est comme curieux, parce qu'il y avait quatre médecins qui faisaient l'autopsie.
Qu'il a peut-être bénéficié plus ou moins de leur complicité.
Au moins d'une complicité,
parce
peut-être.
Je sais qu'on a prélevé des cheveux également à ce moment-là et que les cheveux ont été distribués à différentes personnes. Donc je pense qu'il y a une sorte de complicité, en tout cas plus ou moins tacite à ce moment-là, qui est intervenue.
Parce qu'il n'a pas procédé à l'autopsie seul. Donc il y avait quatre praticiens.
Qui étaient de l'Hôtel Dieu. Lui était lui-même un grand professeur de l'Hôtel Dieu. Donc je pense qu'on peut en tout cas tabler sur son honnêteté morale et intellectuelle.
Prélève à ce moment-là.
Il le prélève, il le met dans un bocal d'alcool.
Et là, curieusement, il l'oublie.
Et puis l'alcool s'évapore et au bout de quelques années, il se rend compte que l'alcool est évaporé. Donc il reprend ce cœur qui s'est momifié à l'air, en fait.
Au bout de quelques années. 7 ou 8 ans, quand même.
Oui, au moment de l'Empire, début de l'Empire. Il avait dû le mettre sur une étagère avec d'autres préparation anatomique, j'imagine, et donc il sort ce cœur de ce bocal et on dit qu'il le met dans un tiroir. Alors je pense que ça devait être effectivement un tiroir où il rangeait aussi des préparations
pièces
anatomiques,
des
choses comme ça. Donc, et là, un de ses assistants, un de ses élèves le vole, sachant que c'était le cœur de Louis XVII, le vole. Et cet élève, alors c'est un petit peu comme la momie de Toutankhamon, parce que il y a beaucoup de morts dans cette affaire. Cet assistant meurt de tuberculose.
Oui, mais attendez, l'assistant Tilos était phtisique avant d'avoir procédé au vol, quand même.
Donc, il meurt vers les dernières années de l'Empire, au début de la Restauration, et la veuve de Thilos, donc l'assistant voleur, remet le cœur à Pelletan, qui à ce moment-là, la Restauration arrivant, fait un certain nombre de démarches pour que cette relique soit remise au Bourbon, donc à Louis XVIII ou à la Duchesse d'Angoulême. Et puis il y a des... Moi, j'ai retrouvé des documents aux Archives nationales. Il y a plusieurs démarches faites par Pelletan. Il y a apparemment des lenteurs administratives dues au duc de Cazes, qui était ministre de la police à l'époque. Ces affaires de bureau, affaires traînent un petit peu. Et finalement,
Il a fait le siège de tout le monde. Hein. Il est passé de tous les côtés. Il est passé par la maison d'Artois. Il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer d'arriver.
Finalement, on imagine on voit pas quel aurait été son intérêt d'avoir autant de... faire autant de pieds et de mains, si on peut dire, pour quelque chose qui n'aurait pas été authentique. Il y a toujours effectivement un petit problème.
Il y a un petit problème.
Et donc, en 1828, la duchesse d'Angoulême, finalement, dit à Pelletan de déposer ce cœur à l'archevêché, chez Monseigneur de Quélen, en attendant qu'il soit déposé de manière plus officielle à Saint-Denis ou au Val-de-Grâce. Enfin, je ne sais plus quelle était exactement la décision.
Pour aller dans le sens de votre thèse, là, je parle sous l'autorité d'Hervé Pinoteau, qui avait fait une très très belle étude que vous avez, je pense, dans Itinéraire, déjà il y a quelques années, en 1981. Il est vrai qu'il y a un moment où on sent que le roi est prêt à faire quelque chose. On prévoit déjà quelque chose pour Saint-Denis. Donc, on ne peut pas dire que les Bourbons se soient totalement désintéressés, mais en même temps, évidemment, ils avaient peut-être d'autres sujets de préoccupation, il faut dire. Et je pense que tout le monde est un petit peu là de ces reliques. C'est l'époque quand même où se présentent beaucoup de faux dauphins, de faux Louis XVII, beaucoup de fausses duchesses d'Angoulême. Il en tombe de partout. Donc, il y a une espèce de suspicion. Enfin, toujours est-il que donc, officiellement, la monarchie restaurée des Bourbons jusqu'à 1830.
Elle ne le refuse pas, en tout cas.
L'accepte pas non plus, quoi. Il y a une espèce, elle reste.
Je crois qu'elle l'avait accepté à la fin, mais elle n'avait pas pris la décision encore d'un événement, enfin, d'une cérémonie, religieuse qui Mais elle l'avait accepté dans la mesure où le dépôt à l'archevêché représentait une sorte d'acceptation. La révolution de juillet arrive et donc ce cœur, comme on disait tout à l'heure, l'urne que Pelletan avait fait
réaliser
et casser pendant le sac de l'archevêché. Le fils Pelletan, puisque Pelletan est mort l'année précédente, le fils Pelletan récupère ce cœur sur un tas de sable, dans les décombres de l'archevêché. Donc là, il y a une affaire un peu rocambolesque. Et puis ensuite, à partir de ce moment-là, on le suit sans problème, puisque le fils Pelletan refait faire une urne de cristal, qui est celle que l'on connaît d'ailleurs aujourd'hui. Et ce cœur reste dans la famille Pelletan et chez ses héritiers jusqu'en 1895. Et en 1895, au moment où les Bourbons d'Espagne acceptent ce cœur, il y a quand même des procès-verbaux réalisés par des médecins à l'époque, des médecins légistes, qui disent c'est bien le cœur d'un enfant de 10 ans. Donc ça, quand même, et là, je crois que lorsque nous allons faire procéder à l'analyse, nous demanderons à des médecins légistes de venir et de nous dire est-ce que c'est bien le cœur d'un enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'on peut dire de cet objet. Donc là, ça nous donnerait une preuve supplémentaire. En tout cas, ça infirme les légendes qui couraient sur le fait d'une substitution. On se demande un peu pourquoi, d'ailleurs, on aurait remplacé Louis XVII par un muet de 18 ans ou 19 ans, comme s'il n'y avait pas suffisamment d'enfants phtisiques et mourants dans les hôpitaux de Paris pendant la Révolution. Et un petit blond de 10 ans, ça devait être assez facile à trouver si on avait voulu faire une substitution.
Aujourd'hui, plus difficile, mais à l'époque, c'est vrai. Il y a quand même une chose qui est intéressante, si c'est toute la période qui va donc de la... de la révolution, enfin d'après la disons de la fin de la monarchie de juillet 1848 jusqu'à la mort du comte de Chambord, parce qu'il y a quand même encore des démarches qui sont faites auprès de Frozov, auprès du comte de Chambord.
Oui, alors le comte de Chambord accepte pratiquement de le recevoir, mais d'abord, je crois que le fils Pelletan meurt entre-temps, il y a des successions, le cœur
ça passe à un notaire ami, c'est très compliqué.
Chez l'enfant d'un premier mariage de la femme d'un notaire, c'est très très très
complexe. C'est hallucinant, c'est une histoire passionnante qui mériterait quasiment un roman.
Effectivement, c'est un objet qui, on peut dire un objet d'une certaine manière, une relique, qui qui traverse un siècle comme ça, un siècle et demi presque, et qui arrive jusqu'à aujourd'hui, et qui grâce à... C'est un peu comme le Saint-Suaire de Turin, oui. Maintenant avec les méthodes... C'est des objets qui parlent grâce aux méthodes scientifiques actuelles et qui ont quelque chose à nous dire de l'histoire, alors qu'autrefois c'était des objets muets. Enfin, tout ça, c'est assez passionnant pour l'historien de voir que les méthodes modernes de la science permettent de mettre d'effacer certains points d'interrogation.
Oui, tout à fait. De combler des cases qui étaient demeurées obstinément vides.
Pour l'ADN, on a déjà eu une confirmation pour les Romanov, par exemple, récemment, et encore plus récemment pour le fameux Gaspard Hauser, qui était cet enfant, enfin cet adolescent muet qu'on avait découvert en Allemagne vers les années 1850, je crois, et on avait prétendu qu'il aurait été le fils d'une princesse de Bade, je crois. Mm-hmm. On a fait une analyse de son sang, puisqu'on avait la chemise tachée de sang qu'il portait lorsqu'il a été assassiné, et on a comparé ce sang desséché, à la famille de Bade actuelle, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun rapport. Donc on arrive à faire des choses extraordinaires grâce à ces méthodes scientifiques.
Alors maintenant, il reste quand même aux auditeurs qui sont, je l'espère, passionnés par cette question, quoi qu'ils ne le seraient pas, parce que c'est quand même une question de l'histoire de France. On peut chacun avoir un sentiment, une opinion, évidemment, mais pour en avoir le cœur net, si je puis exprimer cette expression, n'est-ce pas, il faut donc procéder
à votre bon cœur.
À votre bon cœur. Voilà, il faut procéder à l'analyse. Non, c'est sérieux. C'est une chose quand même très sérieuse. Bon, et pour procéder à cette analyse, eh bien, il faut un peu de sous parce que ça coûte quand même. C'est pas donné, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, on a deux analyses vont être pratiquées par deux laboratoires différents. Donc, le professeur Cassiman de l'université de Louvain en Belgique, qui donc a déjà procédé aux analyses sur Nandorf et sur Marie-Antoinette, va faire une partie de l'analyse et un autre laboratoire en Allemagne, à Münster, le professeur Brinkmann, apparemment, va donc faire l'analyse en aveugle pour avoir un résultat véritablement scientifique, probant. Donc on comparera les deux résultats et là on aura une certitude. Donc chaque analyse coûte à peu près 15 000 francs et puis il y a des faux frais annexes. Donc on a besoin d'environ 50 000 francs.
Donc nous faisons appel aux gros donateurs ou aux petits porteurs.
Ça peut être à partir
de 100 francs. Ceux qui peuvent, à partir de 50 francs, n'importe quoi. L'essentiel c'est que chacun y participe et puis qu'on sache, on apprendra certainement quelque chose de toutes les manières, mais ce pourrait être une très belle contribution à la science historique que d'arriver à enfin faire l'analyse de cet insigne relique. Donc pour cela, eh bien, on invite les auditeurs à faire un don, aussi généreux que possible, à Mémorial de France à Saint-Denis, Mémorial de France à Saint-Denis, 121 rue de Tocqueville, 121 rue de Tocqueville, 75 017 Paris. Donc Mémorial de France à Saint-Denis, 121 rue de Tocqueville, 75 017 Paris. Franck, me faisant les gros yeux, je dois rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie et que nos auditeurs peuvent nous envoyer leurs messages en petite quantité, parce qu'il n'y a qu'une personne pour prendre les messages. Là, on est un peu paniqué. Vous aviez un petit message, ma chère Jacqueline.
Juste une petite précision de notre auditeur de tout à l'heure, qui nous dit que Grétry est né à Liège en 1741 et qu'il est mort à Montmorency en 1813.
Ah non, il est français alors, donc. S'il est né à Liège, il est français. Les Liégeois sont des Français, non? Non, Jacqueline, vous ne pensez pas que les Liégeois sont des Français?
Belges.
Non, ça n'existe pas, les Belges, c'est des Français. Bon. Voilà, les joueurs sont des Français. Alors moi, j'avais deux petites annonces, enfin une annonce à faire très rapide pour le rappeler que Yves Griffon, que nous avons reçu ici il y a deux semaines pour son Charles X, roi méconnu, dédicacera son ouvrage à la librairie Saint-Nicolas, donc rue du Petit Pont, le samedi 2 octobre à partir de 15h. Donc, librairie Saint-Nicolas, samedi 2 octobre, à partir de 15h, la dédicace du livre d'Yves Griffon. Et puis, je rappelle également à nos auditeurs, j'espère, tout à l'heure je me moquais de Serge, j'espère que je ne vais pas faire pire. Non, nous avons chaque année, ça sera la troisième année, le prix Daudet. Donc Serge a dit que c'est le prix Alphonse II. Non, c'est le prix Daudet. Bon, nous rendons à la fois hommage au père et au fils. Ce prix Daudet est dédié à un écrivain, un auteur, un producteur de radio qui aura le mieux servi la langue française au cours des trois années écoulées. Il y a deux ans, c'est le professeur Jacques Lacan qui avait reçu le prix Daudet, qui se trouve qu'il est aussi un des animateurs de Radio Courtoisie. Et puis l'année suivante, c'était Madame Brigitte Level, qui aussi est une animatrice sur Radio Courtoisie, qui l'avait reçu. Donc peut-être que pour la troisième fois, Moi, je suis hors concours. Je trouve que les animateurs devraient être absolument hors concours. Enfin, ça, c'est un point de vue. Donc, comment fait-on ? Eh bien, il suffit aux auditeurs, à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, quels qu'ils soient, et quand je dis les auditeurs, j'embrasse aussi les auditrices, d'envoyer d'envoyer une enveloppe timbrée et libellée. Si on dit libellé, ça veut dire écrit à son adresse, hein, logiquement. Donc timbré et libellé, on leur enverra un bulletin de participation qu'ils rempliront, mettront le nom de la personne qu'ils estiment avoir le mieux servi la langue française au cours des 3 années. Ils le renvoient à Radio Courtoisie. Non, ils l'envoient à l'huissier. Mais alors, nous n'avons pas l'adresse de l'huissier. Bon, ils l'enverront à l'huissier. L'huissier ouvrira toutes les enveloppes, va faire les listes, il va faire les occurrences, donc il y aura peut-être 200 noms et 4000 votes. Alors, il y aura les 10 premiers. Et les 10 premiers seront, parce que nous sommes très censitaires ici, nous sommes des démocrates censitaires ici à Radio Courtoisie, là nous sommes pour le suffrage universel au premier tour, et ensuite le suffrage censitaire, ça a tout, beaucoup de charme. Donc les 10 noms arrivés en tête seront les 10 personnes, susceptibles d'avoir le prix d'Audet, et à l'occasion du dîner de Radio Courtoisie qui sera le 7 novembre. C'est le 7 novembre parce que la radio a été créée un 7 novembre. Donc ce sera le 11e, je pense. Le 12e, la 12e anniversaire de notre radio, c'est la fête de langue française. Quand les invités arriveront, les personnes qui paieront leur place, eh bien, sur leur assiette, il y aura les 10 personnes. Donc là, ils voteront à nouveau. Ils bifferont 9, ils en garderont 1. On redonnera à un huissier qui refera tout le mélange, qui refera avec des machines électroniques, tout ce qu'il faut. Et au moment du dessert, eh bien, on annoncera le troisième lauréat du prix d'Audet 1999, décerné par Radio Courtoisie. J'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. C'est pas mal ce que j'ai fait, quand même.
Bon. C'est un suffrage censitaire indirect, puisqu'il faut payer.
Voilà, il faut payer en plus. C'est raison, Philippe Delorme. C'est suffrage. Ah, ça, j'aime beaucoup. C'est censitaire indirect. Voilà. Eh bien, moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Donc, j'invite nos auditeurs immédiatement, donc sans plus tarder, à déjà coller un timbre sur une enveloppe, à mettre leur adresse sur l'enveloppe, et puis à renvoyer cette enveloppe ici à Radio Courtoisie, et donc on leur adressera le bulletin de participation. C'est leur suffrage universel gratuit. Hein, et le vrai vote, là, par contre, est payant. Voilà. Merci donc de votre attention. Ils ont tous participé nombreux, parce que c'est très amusant, tout le monde peut participer. Bon, je trouve ça très sympathique. Alors l'ambiance du dîner est toujours très 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 drôle, bon, quand on annonce une espèce de petit suspense, et c'est très sympathique. Voilà. Et puis c'est une bonne cause, la cause de la langue française est vraiment une des causes que nous sommes nombreux à essayer de défendre, plus ou moins bien, mais c'est aussi une langue qui est aussi menacée. Il n'y a pas que le pays qui est menacé, la langue est aussi très très menacée. Bon, enfin, quand on voit ce que font les minorités francophones du Canada, que ce soit au Québec, au Nouveau-Brunswick, les Acadiens en Louisiane, les Cajuns, bon, on se dit que quand même, hein, on n'est quand même pas très courageux, nous autres, les hexagonaux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. À présent, je me tourne vers Georges Poisson, d'abord pour le féliciter de son travail. C'est un très beau travail qu'il a fait sur la famille d'Orléans, sous-titré Une famille en quête d'un trône, publié chez Perrin. Alors c'est un très très gros volume, puisque nous sommes à plus de 400 pages avec tout ce qu'il faut, tableau généalogique, index des noms, donc c'est un très beau livre qui est vendu 149 francs, il faut toujours dire le prix, ça intéresse nos auditeurs aussi, qui est quand même un travail pour lequel vous avez consacré énormément de temps. Parce que vous avez déjà consacré beaucoup de temps à la première édition, entre guillemets, de cet ouvrage, qui a paru il y a déjà un quart de siècle, pour ainsi dire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à refaire cette mise à jour ?
Il est toujours agréable de refaire, de rééditer un de ses livres. Tout auteur espère que l'éditeur reviendra à la charge. Et par ailleurs, chaque fois que je publie un livre, et j'en ai publié beaucoup, je garde bien sûr un exemplaire sur lequel je note au fur et à mesure tout ce que je voudrais rajouter, corriger, transformer, etc. Alors après, évidemment, je suis content quand l'occasion m'en est donnée.
Parce que donc c'est un livre sur une famille qui ne s'est pas éteinte, en fin de compte. Elle est toujours là, elle était là en 1970, elle l'est encore aujourd'hui, même si elle est un peu réduite et en proie quand même à une crise certaine. D'ailleurs, oui, plus une crise d'identité, à mon avis, qu'une crise financière, même si les journaux ont un peu trop mis le projecteur sur les questions de succession, la succession financière. C'est plutôt une crise d'identité, actuellement, qui frappe cette famille. Puisque
elle n'est pas si réduite que ça. Il y a quand même, le comte de Paris, il y a 40
enfants. Oui, oui, non, mais je sais. Nous avons reçu, mon cher, nous avons reçu Philippe de Montjouvent ici, qui nous a expliqué toute la descendance du comte de Paris. Donc, nous savons. Non, je veux dire, par contre, que c'est une famille qui, aujourd'hui, est une famille qui manque de projet. Enfin, on voit plus très bien de quel projet elle est vraiment porteuse.
Oui, je crois surtout que c'est maintenant une famille qui est devenue, si j'ose dire, une famille de Français moyens, avec ses réussites et ses échecs, ses défauts et ses qualités, ses aventures à l'échelle de la famille, et que rien plus maintenant ne la rattache à un destin national.
Oui. Elle a essayé, prendre la famille d'Orléans, donc, c'est la famille qui est issue du frère cadet de Louis XIV, qui a d'abord été duc d'Anjou, d'ailleurs, et puis quand son tonton Gaston est mort, qui était duc d'Orléans, on lui a donné le titre de duc d'Orléans. Alors, ce jeune homme, malgré d'ailleurs des dispositions qui ne le prêtaient peut-être pas à produire une aussi grande succession, a fait quand même son devoir de prince du sang.
Il a tout de même eu 6 enfants, oui, deux mariages successifs. Ce qui pour un homosexuel est
quand même... C'est quand même très honorable. Ouais. Surtout, faut reconnaître aussi que même s'il n'avait pas été au début, la Palatine quand même, c'est quand même pas très très...
Il a un homme, donc ça pouvait lui plaire.
Bon, peut-être. Alors, Philippe Delorme, vous avez vraiment beaucoup d'humour. Mais bon, enfin, il a... Et alors, cette famille s'est tout à fait répandue. Et évidemment, c'était des personnages de grande importance. Le monsieur, frère du roi, était un personnage de grande importance. Et puis, la descendance elle-même va être très très importante, puisqu'on va quand même avoir des personnages comme les régents, qui vont avoir qui vont laisser quand même une trace dans l'histoire, même si on peut contester.
Le régent était un grand homme d'État.
Je crois que c'est de loin le personnage le plus intéressant de la famille. Après, on va en avoir des quand même beaucoup moins agréables. On va avoir Philippe Égalité, Sentiré malheureusement, qui va voter la mort de son cousin. Et puis nous allons avoir Louis-Philippe, qui va tâcher d'accommoder ce qui reste d'esprit royaliste en France au temps nouveau, mais il ne va pas non plus bien réussir. Et puis ensuite, nous allons avoir des princes, dont certains sont des princes de qualité, il faut le dire, même au plan intellectuel, parce que c'est comme une branche plutôt intellectuelle.
Sûrement. Il y a un personnage en particulier que je trouve tout à fait remarquable, c'est le duc d'Aumale. Le duc d'Aumale était un grand soldat, un grand collectionneur, un homme cultivé, un grand administrateur, un mondain dans le très grand sens du terme. Ses confrères à l'Académie disaient « nous parlons, lui il cause ». Il aimait aussi beaucoup les femmes, il n'y avait qu'une seule chose qui l'intéressait pas, c'est la politique. Et s'il s'y était accroché, vraisemblablement serait-il devenu président de la République après 70, manifestement ça ne l'intéressait pas.
Alors, de quel personnage vous sentez-vous? Ça, c'est une question un petit peu bébête que je vais vous poser, mais parce que ça m'intéresse. Parce que, de quel personnage de cette famille vous sentez-vous le plus proche? Quel est celui plutôt qui vous a le plus passionné? Parce que tous ne sont pas absolument passionnants, recommandables en tous les cas.
Bien sûr, bien sûr. Mais ils ont tout de même des caractéristiques communes. Ils sont intelligents, ils ont de l'humour, ils sont cultivés.
Ils sont riches.
Ils sont riches et ce sont d'admirables collectionneurs. Ils sont braves au combat, ils aiment les femmes, l'ancêtre aimait plutôt les hommes, enfin, c'est une parenthèse. Ils aimaient le peuple, ce qui n'était pas fréquent chez les princes. Ils n'étaient pas toujours très scrupuleux. Alors, c'est le mélange de ces qualités et de ces défauts fait est quelquefois explosif. Quelquefois, ça tourne bien et on a le régent qui vraiment mène la France au lendemain de la mort de Louis XIV. Et ce n'était pas commode car il arrivait après une sorte de débâcle, aussi bien militaire que financière. Donc, il a réussi vraiment à ramener la monarchie dans un sens plus moderne, plus dans le vent, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis, alors, au contraire, il y a la faillite complète de Philippe Égalité qui était exceptionnellement, si j'ose dire, pour sa famille, un lâche. C'était un homme sans courage, qui en plus ne s'intéressait pas à la politique en général. On a beaucoup dit qu'il avait voulu confisquer la révolution à son profit, qu'il avait financé, fomenté des émeutes. En réalité, ça ne l'intéressait pas. C'était une planche pourrie. Et ce genre de caractère, évidemment, quand on est dans une position importante, dans les périodes troublées, en général, vous mène d'abord au crime et ensuite à l'exécution.
L'exécution, ce qui s'est passé. Enfin, là, pour le coup, le scénario a été entièrement réalisé. Alors, au mal, vous me disiez tout à l'heure, est le prince qui vous séduit peut-être le plus.
Ah oui, c'est un personnage de grande allure.
Donc, rappelons que c'est un fils de Louis-Philippe.
Et son frère Joinville aussi, qui est un personnage extraordinaire. Joinville aussi. Un grand voyageur, grand marin.
Oui. Et il faut bien dire que la fortune d'Aumale trouve son origine dans une manœuvre on ne peut plus douteuse de son père Louis-Philippe, qui a réussi à confisquer l'héritage des Condé en mettant de son côté la maîtresse du dernier prince de Condé.
Mort dans des circonstances quand même extrêmement curieuses. Quand même. C'est moi pour
une sorte de marché avec elle, ça n'est pas joli. Ouais,
la feu chère, n'est-ce pas, je pense que c'est ça. Oui, c'est pas... Alors, ce qui est intéressant à voir, puisque l'histoire va jusqu'à nos jours, de cette famille, elle se poursuit encore, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a l'impression que plus le temps passe, plus les possibilités politiques semblent s'éloigner, semblent comme s'évanouir. Autant elles sont très proches. Je ne dis pas que le frère Louis XIV, si Louis XIV était mort sans postérité, évidemment le frère aurait succédé. Autant avec le régent, on voit très bien que là il y a un problème de régence, il prend le pouvoir littéralement, même si c'est en contradiction avec le testament de Louis XIV. Mais enfin Louis XIV a fait quand même aussi pas mal de liberté aussi avec les lois fondamentales. Philippe Égalité, vous dites c'est une planche pourrie, vous voulez rien. Je ne partage pas tout à fait votre sentiment là-dessus. Je pense qu'il voulait jouer. Oui, il voulait jouer son rôle. On le voit avec Louis-Philippe aussi, qui profite d'une crise terrible de la monarchie restaurée pour se saisir. Mais ensuite, on a l'impression que plus le temps passe et plus les possibilités concrètes s'envolent, si vous voulez.
Mais vous savez, la grosse faute des successeurs de Louis-Philippe, ça a été d'identifier leur destin à la droite française, qui bientôt est devenue l'extrême droite, par conséquent de se cantonner dans une fraction de plus en plus restreinte de la population. Et ça a été le grand mérite du comte de Paris, de celui qui vient de mourir, avant la guerre. Avant la guerre, il a essayé de réconcilier l'idée monarchique avec toutes les tendances françaises, disant la monarchie n'est pas un parti politique. Et ça n'a pas réussi. Il était d'ailleurs trop tard, bien entendu, mais enfin, tout de même, il a réussi à donner un autre visage aux prétendants. Et ça, c'était une idée tout à fait intéressante.
Parce que la question royale et monarchique en France, disons en gros de la mort du comte de Chambord jusqu'aux années 30, plus particulièrement d'ailleurs du début du 19e siècle jusqu'aux années 30, deux choses vont se confondre. Il y a d'abord la question du prétendant, n'est-ce pas, de celui qui se considère comme étant le chef de la maison de France, qui n'est pas mon point de vue à moi, comme vous le savez, Philippe, mais enfin bon, c'est pour la clarté du débat. Alors, je préviens les auditeurs, c'est pas ce que je pense, c'est pas parce qu'on parle beaucoup des Orléans actuellement, que je me reçois des lettres d'insultes, on m'insulte, on me dit comment vous avez tourné votre casaque, etc. Non, il y a une actualité, on parle des Orléans, Philippe de Montjouvent fait un bon livre, on invite Philippe de Montjouvent, Georges Poisson fait une excellente histoire, on l'invite, Philippe Delorme est venu aussi dans des débats ou d'autres choses, mais on en parle tranquillement. Alors, ceci pour dire que j'ai perdu le fil de ma converse de ce que je voulais dire.
Vous parliez des prétendants.
Oui, des prétendants. Il y a la question du prétendant et la question de l'action française. On peut dire que c'est ça le problème.
Je crois qu'au début du siècle, il y a eu deux prétendants qui n'y croyaient pas. C'était le duc d'Orléans n'y croyait pas beaucoup et alors le duc de Guise encore moins. Donc c'est vrai qu'ils ont laissé le champ libre à Maurras et à l'action française qui ont confisqué vraiment pendant 30 ans l'idée royale et qui en ont fait une chose qui n'avait plus grand-chose à voir avec la monarchie, qui était une sorte de construction idéologique extrêmement séduisante. Et effectivement, ça a été le grand mérite du comte de Paris défunt d'essayer de sortir l'idée royale de cet écueil. Mais en la sortant de cet écueil, il ne restait effectivement plus grand-chose, puisque la République étant devenue le régime, je dirais, pratiquement naturel pour 90% ou 95% des Français,
Entre la République et l'Action française, il lui restait vraiment un domaine tout à fait limité.
Il y a deux moments où le comte de Paris aurait peut-être pu jouer un rôle, c'est au moment d'Alger en 42-43, et puis avec De Gaulle au début des années 60, mais c'est vrai que c'était sans doute déjà trop tard et que la France, les Français n'auraient pas suivi.
Alors, Alger, je voudrais tout de même dire que le comte de Paris à Alger a essayé de faire quelque chose à peut-être suggérer l'assassinat d'Arlan. À mon avis, c'est la même chose que le préfet Bonnet. Le préfet Bonnet aussi a dû suggérer qu'on le débarrasse de cette paillote.
C'est des choses qui peuvent arriver.
Il faut faire attention aux paroles que l'on prononce en l'air. Bon, ceci dit... j'ai perdu moi aussi le fil de mon histoire.
Vous parlez d'Alger, donc il y avait
il n'a pas réussi et personne ne pouvait réussir à sa place parce que c'était un panier de crabes incroyable. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir essayé et de n'avoir pas réussi. En revanche, ce en quoi je le trouve profondément condamnable, c'est que en 43. À l'époque où il n'était plus question de Pétain et de Gaulle, tous les Français qui étaient hors de France allaient se battre. Et bien le comte de Paris, lui, est allé se dorer au soleil au Portugal pour attendre la fin de la guerre. Ça, je trouve ça une conduite tout à fait regrettable. Quant à ses rapports avec De Gaulle, lui, comte de Paris, y a beaucoup cru. Le De Gaulle n'y a jamais cru. Et De Gaulle l'a roulé dans la farine de façon tout à fait incroyable. Enfin, le comte de Paris ne faisait pas le poids en face de Gaulle.
Je pense aussi, parce que m'est arrivé de feuilleter quand même Philippe Delorme, vous pouvez intervenir quand vous voulez, si vous vous sentez trop vexé ou trop attaqué, vous avez le droit de parler ici, c'est la liberté.
Non mais c'est difficile, c'est vrai.
Si vous souhaitez, Jean-Baptiste Bott. Mais c'est très compliqué. Je pense qu'il nous faudra encore un petit peu de temps. Un livre va sortir d'ailleurs sur la pensée politique du comte de Paris, de notre ami Xavier Walter, qui va apparaître bientôt chez François-Xavier Guibert. Puis moi j'aime beaucoup Guibert, j'aime beaucoup Walter, donc je pense qu'on pourra faire une émission là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que c'était à la fois, le comte de Paris était à la fois l'Orléans contemporain qui a levé le plus de goût pour la politique, mais je crois aussi que c'était l'homme qui était le moins fait pour en faire. Moins fait pour en faire, parce que quand on lit, quand on feuillette le livre de... Il a fait l'espèce de correspondance croisée avec De Gaulle. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans les lettres de Gaulle, en fin de compte? C'est des lettres extrêmement courtoises, très écrites à la main, avec tout ce qu'il faut, je suis Monseigneur du Prince, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il le félicite pour la naissance, il le félicite pour le mariage, pour la première dent du petit. Il n'y a pas une chose forte au plan politique. Il n'y a pas un échange politique très très fort. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le comte de Paris était démuni d'intelligence politique. Il en avait, peut-être pas suffisamment pour jouer ce rôle qu'il aurait souhaité jouer. Il en avait quand même. Bon, il a vu que Giraud était quand même... Bon, passons. Je crois que n'importe qui aurait pu s'en apercevoir. Mais
Il avait peur de réussir. C'est un peu le syndrome du prétendant. C'est-à-dire, on le voit avec les prétendants des pays de l'Est, Michel de Roumanie et compagnie. Ils ont peur de rater l'occasion et en même temps... Donc, ils attendent le moment le plus propice et finalement ils le laissent passer.
Mais oui, il a toujours préparé les occasions.
Donc, on a l'impression
c'était un excellent homme de réflexion. On relit le bulletin mensuel du comte de Paris qu'il a publié après son retour en France pendant une vingtaine d'années, il y a des tas de choses intéressantes selon sa prise de position sur différents problèmes. Là, il y a des réflexions extrêmement intéressantes. D'ailleurs, le bulletin a été très lu.
Je vous propose de faire une toute petite pause pour rappeler aux auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, qu'ils peuvent nous appeler au 01 46 51 00 85 et pour me tourner vers Jacqueline parce que quelques messages sont arrivés. Je rappelle aujourd'hui que nous n'avons qu'une seule personne au secrétariat, d'ailleurs que je remercie parce que c'est quand même très gentil. On ne remercie jamais assez les personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qui se donnent un mal de chien à prendre des messages au kilomètre pour animer l'émission.
Vous avez raison. Alors, un auditeur, dans une biographie récente de la duchesse d'Angoulême, on rapporte que le comte de Chambord aurait dit à un partisan de la survie de Louis XVII...
Donc là, nous revenons à l'affaire Louis XVII.
Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir empoisonné les dernières années de la duchesse d'Angoulême avec ses sornettes.
Il paraît que la duchesse d'Angoulême, je crois que c'est dans la biographie que vous avez publiée, s'énervait très 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 fort quand on lui parlait de ça.
Et puis on nous demande, la fortune d'Henri de France, décédée en juin, a-t-elle été retrouvée? Elle pourrait servir à Serge de Bekenche, au légitimiste pour l'analyse du cœur et à Radio Courtoisie pour un satellite.
Absolument, on pourrait partager, capitaine. Alors ça, je crois, sur la fortune des Orléans. Alors c'est une fortune un petit peu comme certains avions, à géométrie variable, n'est-ce pas? Il y a eu les Orléans étaient apanagés de façon absolument prodigieuse. Enfin, la fortune de monsieur était colossale. Celle de Philippe Égalité était aussi colossale. Et pourtant, il a fini totalement, quasiment ruiné. Et puis, les fortunes se sont reconstituées. Et c'est vrai que, disons, juste après la Première Guerre mondiale, la fortune de la famille d'Orléans était comme une fête, quelque chose de
les journalistes ont beaucoup exagéré sur les dilapidations du comte de Paris ces dernières semaines dans leurs articles. Parce qu'en fait, il faut voir que le comte de Paris avait trois sœurs, que lorsqu'il y a déjà eu un partage, à ce moment-là, il a récupéré qu'une partie de la fortune. Ensuite, il a déposé quand même à l'intérieur de la Fondation Saint-Louis toute la partie des choses vraiment historiques, le château d'Amboise, les grands tableaux, enfin les choses les plus importantes ont été enfermées dans cette fondation, donc sorte de l'héritage. Donc effectivement, il y a eu des pertes, il y a eu des mauvaises gestions. En plus, c'est une fortune foncière essentiellement, et on sait bien que les champs et les bois ont perdu beaucoup de leur valeur depuis 50 ans. Donc en fait, c'est surtout une mauvaise gestion aussi, plus qu'autre chose.
On m'a dit aussi, parce que je ne savais pas, Philippe, comme là, j'ai jamais lu dans vos journaux, je ne savais pas qu'il était joueur.
Non, ça, je
pense. Il paraît qu'il flambait beaucoup, mais qu'il n'a pas eu davantage de chance comment dire,
est-ce que ça ne fait pas partie je crois que ça fait un peu partie de la légende quand même.
Vous pensez?
Oui.
Bon, enfin, j'ai pas, moi j'ai lu ça partout.
Ses enfants l'ont dit. Je ne sais pas, je n'étais pas à côté de lui.
Alors, nous retournons vers Jacqueline encore.
Oui, j'ai oublié ce message. Dans les milieux royalistes, c'est un auditeur, on met en doute la filiation du comte de Paris. Qu'en pensez-vous?
La femme du Capet n'a pas été fidèle, j'ai autant vous dire que la succession capétienne l'est déjà entachée. Alors donc, écoutez, les choses sont, les mariages sont issus et mariages issus canoniques, et puis basta, c'est tout. Parce que si on commence à se prendre la tête, ça c'est des choses...
De toute manière, le comte de Paris était un d'Orléans dans la mesure où il était issu de mariages tellement consanguins qu'il avait quatre fois, mais par contre,
les petits-fils du comte de Paris actuel, là c'est un impact jamais vu dans l'histoire du monde. Je crois qu'il descend du régicide au moins 8 fois ou 10 fois, c'est une horreur.
On peut tout de même dire que la mère du comte de Paris, la duchesse de Guise, était très belle, avait beaucoup de succès, mais que personne n'a jamais dit vraiment à haute voix et même à mi-voix qu'elle trompait ce pauvre duc de Guise qui était si respectable. Oui.
Alors, question un auditeur, encore. Le comte de Paris était un des crabes du panier algérois dont vous parlez. Oui. C'est ce qui ressort de tous les livres écrits sur la question, comme celui d'Ordioni.
Ah oui, de Pierre Ordioni, qui a fait un livre aussi sur les compos d'Argé. Là, j'ai eu un livre remarquable d'ailleurs, oui.
Alors, le comte de Paris a servi dans la Légion étrangère. Un Bourbon a-t-il servi la France sous l'uniforme français?
Ah oui, oui, beaucoup. Sixte, Bourbon-Parme, le prince, celui qui est à Michel, quand même, Croix de Guerre.
Napoléon, qui est Orléans par sa mère, a fait une très belle guerre.
Non, je veux dire, bon, ça là-dessus, il faut pas se lancer, je dis à l'auditeur qui a envoyé ce message sympathique, il faut pas se lancer comme ça, les prétendants à la tête, en disant lui l'a plus servi, celui-là l'a moins servi, etc. Non. Ouais. Tous ont servi, puis selon, bon, le destin qu'ils ont eu, les destins nationaux différents, après tout, si Louis XIV n'avait pas accepter le testament du roi du feu, roi d'Espagne, Habsbourg, on serait peut-être pas là aujourd'hui à se battre sur les prétendants, parce que ce serait peut-être déjà réglé. Alors vous voyez, on a essayé de parler un peu d'histoire, et puis on en revient toujours au sujet d'actualité, au sujet politique, parce que c'est peut-être quelque chose qui passionne, je pense, nos auditeurs. En tout cas, nous, autour de cette table, ça nous passionne beaucoup. Alors aujourd'hui, donc, après la mort du comte de Paris, qui a été, c'est vrai que c'est un événement, on peut juger le personnage comme on veut, mais c'est un événement important. C'est un homme qui a quand même traversé un siècle, avec une vision particulière, avec un héritage particulier.
Il est resté 60 ans ou presque à la tête de sa famille.
Voilà, famille. Alors aujourd'hui, à votre avis, qu'en est-il des Orléans?
Je voudrais pas dire de mal de gens qui sont encore vivants. Et
non, parce que dans votre livre, vous êtes un peu désabusé.
Dans une certaine mesure respectable, mais je ne leur vois pas... ni le moindre avenir, ni même le des atouts.
Parce que d'abord, de l'argent, il n'y en a plus beaucoup, quoi, des charges. Parce que ça compte. Oui. Faut, la politique, ça se fait aussi qu'un peu de sous.
Oui.
Bien, mais il me reste à rappeler donc le formidable bouquin que vous avez édité chez. Non, c'est vraiment un livre passionnant. Alors bon, il y aurait des petites choses sur lesquelles on pourrait discuter. Moi, je suis pas là, on n'est pas là pour pinailler. On est là pour essayer de faire que les. C'est une très bonne source documentaire sur les Orléans. Vous avez votre sentiment sur chacun de ces personnages. Pour certains, vous avez de la sympathie, rarement un enthousiasme sidéral, je dois dire.
Le biographe doit se méfier aussi bien de l'enthousiasme que de la
contemplation pure et simple. Enfin, il y en a certains qui quand même n'ont pas vraiment. Voilà. Alors c'est un livre donc aux éditions Perrin, ça fait 400 pages, très beau livre parce qu'il y a index des noms, toutes les sources bibliographiques et puis surtout alors indispensable les tableaux généalogiques. Nous aimons ça, Philippe, les tableaux généalogiques. On se bat les tableaux généalogiques. Voilà donc une famille dont on évidemment elle se poursuivra, le nom sans doute survivra, mais aura-t-elle encore un destin national? Ça, c'est une question qui est. C'est une
question. Il y a des nouvelles générations prometteuses.
J'en accepte pour vous l'augure, mais nous avons des générations prometteuses des deux côtés, dans la branche aînée aussi, mon cher camarade.
Il y a des petits jeunes partout.
Il y a des petits jeunes partout, c'est eux qui ont. Voilà, je vous remercie bien sûr tous d'avoir participé à cette émission, Jean-Patrice Brosse, Georges Poisson et notre ami Philippe Delorme qui a beaucoup parlé ce soir, et tant mieux. Nous nous retrouverons, si Dieu le veut, la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Beketch, dirigé successivement par Serge de Beketch, assisté de Victoria et par Daniel Amiche, assisté de Jacqueline Levenbruck. Émission datant du 15 septembre 1999, elle a été diffusée samedi 8 octobre 2011 dans la nuit de 2h à 5h et a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.